Et puis tout de suite et en direct, le libre journal de Serge de Vekech. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 14 février 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 15, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone 01 46 50. Télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la résistance, bonsoir. Mais pas très résistant.
Vous résistez, vous croyez?
Non. Je suis fatigué. Fatigué. Je peux plus. Le premier qui dit Sarkozy, il colle une claque. Je ne peux plus. Voilà.
Et si on dit Ségolène, on prend pas.
Pareil, pas deux.
Et si on dit Besancenot?
Si on dit
Besancenot.
Ah, il est bon, Besancenot.
Il est mignon comme fait... tout, hein.
Non, mais je vous parle pas de ça.
Vous savez bien que les bonnes femmes.
Vous
savez bien
que les bonnes femmes. Voter le canuet avant.
Vous votez avec le marin, ou c'est pas possible.
Moi, dans ma classe, en 1974, elle m'avait élu le petit Renouvin. Parce qu'il était mignon. C'était des CM1.
Pas un clou, là, c'est pas.
Comme délégué de classe.
Mais non, comme président de la République.
Et Bayrou. Ah, c'était Renouvin, c'était lui dans.
Le charmant petit Renouvin.
C'était lui dont ADG avait dit. Renouvin, il a le regard d'une assiette de purée poursuivie par une fourchette à huîtres.
Ah, c'est trop joli, ça.
Je voulais rien dire, c'était superbe. Bon, que dire. Oui, enfin. Si je voudrais quand même parler un peu de l'actualité. D'abord, je voudrais dire bonjour à Lionel, il saura pourquoi.
Bonjour Lionel.
Ça. Voilà, dites tous si bonjour,
bonjour
à Lionel.
Bonjour Lionel. Voilà. Bonjour Lionel. Il est à l'île de Ré, non, c'est celui-là?
Non. Ah non, pas lui. Non, ah non, c'est un Lionel sympathique.
Ils ont rouvert à l'île de Ré.
Non, je sais pas. Je me trompe. Non.
Et puis je voudrais dire bonjour au chauffeur de bus qui m'a salué tout à l'heure.
Ah, ça, oui, c'est joli, ah oui, c'est bien.
Parce que d'habitude c'est les taxis qui nous disent mais je connais votre voix, je vous entends sur la radio. Et là, j'étais en train de, je m'apprêtais à traverser, il y a un bus qui s'arrête devant moi. Et il ouvre la porte. Alors je lui fais non merci, je me demande pas. Il me dit non, je voulais juste vous dire bonjour monsieur de Bekech.
Ah, ben c'est un plaisir. La gloire quand même. Hein? C'est la
Donc
gloire.
Je ne dirai plus de mal des gens de la RATP pendant au moins, enfin jusqu'à la prochaine grève. Voilà. Bon, ces politesses étant dites, Je voudrais vous montrer comment fonctionne un peu le pays. Alors c'est intéressant parce que là j'ai un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre. Nature des infractions. Violence avec usage. Menace d'une arme. Suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Pardon. Transport sans motif légitime d'armes de catégorie 6. Usage illicite de stupéfiants. Donc, vous m'avez compris, c'est un mec, bon. Il s'appelle Samir Issad. On peut dire son nom puisqu'il a été condamné. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Samir Issad? Ben, il était pas content il était en voiture. Naturellement, il devait être défoncé. Il était pas content d'un autre automobiliste. Alors, il est sorti avec son revolver, puis il lui a tiré dessus. Bon, comme il était stone, comme on dit maintenant, il l'a raté. Enfin, il l'a blessé quand même. Alors, en première instance, il avait pris 18 mois avec sursis, quand même. Et puis, alors qu'il n'avait pas comparu. Et là, donc, la victime a fait appel. Elle trouvait que 18 mois avec sursis, c'était quand même un petit peu, c'était pas grand-chose. Ben, la victime, il a gagné, parce que, du coup, il n'y a même plus de prison. Il y a une amende, voilà. Mmh. Une amende et du petit dommage et intérêt. Donc, maintenant, je vous le dis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, si un type vous enquiquine sur la route, vous sortez avec votre flingue.
Et on le fume.
Vous le fumez. Et puis après, vous produisez la jurisprudence 05-24-27-10-10 de le tribunal de grande instance de Nanterre, et vous dites, moi je vois pas pourquoi je serais plus condamné que monsieur Issad Samir, qui a fait exactement la même chose que moi,
donc,
et qui a été condamné à 1200 euros. Non, ça, 1200 euros, c'est au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale. Il a été condamné aux dépens. Et il a été condamné à rembourser le préjudice, voilà, ce que la sécurité sociale avait déboursé pour sa victime.
Oh, bien. Alors non, c'est bien ça.
Pour le coup de sang privé, si on peut flinguer, fumer un type pour 5000 euros,
ça ouvre des perspectives.
Dès que j'aurai 5000 euros sur mon compte, je sors.
Ouais, bon, il y en a qui vont être au chômage.
Voilà comment fonctionne ce pays.
Les tueurs à gages, on n'en a plus besoin. À ce prix-là, on peut faire soi-même.
Voilà, exactement. Et puis, autre exemple du bon fonctionnement de la justice française, parce que c'est quand même ça l'essentiel, c'est que, Dieu merci, on est un pays de droit.
Oui, et puis dans une société juste, au combien.
Et dans une société juste et égale, où tout le monde est égaux. J'ai entendu ça l'autre jour, chacun est égal, a dit le type à la radio.
À qui?
Tous les fois,
hein. Égal à qui?
Il est égal, voilà. Alors, là vous avez un exemple d'égalitude, pour parler comme l'autre. C'est Bidard. Bidard, vous avez dit Bidard? Oui, j'ai dit Bidard. Comme c'est étrange. Monsieur Bidard, on peut pas vraiment lui tenir rigueur de ce qu'il a fait. Il a jamais buté qu'un flic et deux gendarmes. Donc, il n'y a pas de quoi faire un fromage quand même.
Il a fait beaucoup d'années de prison quand même.
Et il a fait 19 ans de prison. Et il est sorti.
Aujourd'hui, il a fait une déclaration.
Aux acclamations de la foule, ce qui est très bien. Je suis très content pour lui qu'il soit bien reçu et tout. Mais pendant ce temps-là, en tôle, il y a toujours un garçon qui s'appelle Michel Lajoie, je voudrais le rappeler. Michel Lajoie, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il avait 20 ans, manipulé par des poulets de la police politique, ça a été surabondamment démontré, il a jeté un pétard pirate, vous savez, les gros pétards qui font beaucoup de bruit et qui blessent personne, dans un café maghrébin.
Ah, bah oui.
Ce pétard a explosé, et il a fait tellement de dégâts que quand l'assureur s'est présenté, il n'a rien trouvé à rembourser. Vous vous rendez compte? Il y avait pas un dégât remboursable par l'assurance. Il n'y avait pas un blessé. Si, peut-être un type qui avait des bourdonnements d'oreilles. Il n'entendait plus la mosquée qui appelait. Bon.
Le médecin.
Hein, le médecin, oui. Le médecin malgré lui. Eh bien, le camarade Lajoie, il a pris perpète. Ça fait 20 ans qu'il est en tôle. 20 ans. Il y a un an, il avait obtenu une audience pour une mise en liberté provisoire. Ça a été refusé sur pression de la LICRA, du MRAP ou je ne sais quelle encore boutique. Et il est toujours en prison. Il est toujours en prison alors qu'il a un métier. On lui a trouvé un travail. Ses amis, enfin les gens qui l'aident, lui ont trouvé une embauche. Lui ont trouvé un logement, dont le loyer est payé tous les mois en ce moment même par l'association qu'il défend.
Enfin, toutes les conditions pour qu'il puisse
toutes
sortir.
Toutes les conditions sont réunies. Et le boulot qu'on lui a trouvé, c'est un boulot qui est dans une entreprise privée. Alors que Bidart, c'est l'État qui lui fournit un travail.
Et vous savez lequel ? Vous avez vu lequel ?
Éducateur spécialisé.
Pour les mal logés ou pour les...
Pour les situations
irrégulières.
Non, mais attendez. Mais vous êtes
un terroriste, on lui donne à former les gens qui sont en situation irrégulière en France. C'est aberrant.
Messieurs les députés, messieurs les ministres, vous êtes des dingos. Mais vous êtes des dingos.
Et des salauds.
Des voyous.
Et des salauds.
C'est incroyable de faire des choses pareilles. Alors ce type, bon, qui sort de tôle après 20 ans. Apparemment, les gendarmes trouvent ça.
Non, non, mais ils sont en train de. Vous n'avez pas écouté les communiqués parce qu'il a fait une déclaration.
Il a porté plainte devant la Cour européenne.
C'est le ministre qui va peut-être chercher à voir s'il peut le remettre en tôle parce qu'il a fait une déclaration qui n'était pas bien.
Ah, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Bon, il a parlé de la liberté de ce qu'a dit, etc. Quoi. Enfin, il est revenu sur ça. Il n'a pas parlé des victimes qu'il avait faites.
Ah non, mais il n'a pas parlé de la question.
Ouais.
Non.
Ah non.
Ah bon, ça me rassure.
Pas encore.
S'il avait parlé de la question, il n'avait même pas l'air. Le temps de respirer à la sortie de la prison, il rentrait tout de suite. Alors, j'ai entendu ce matin sur je ne sais quelle radio l'interview du gendarme qui l'avait arrêté, qui est un colonel de gendarmerie. Et qui a dit la chose, c'est hallucinant. Et on lui a dit, alors, vous qui avez arrêté Bidart, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, oh, c'est un type pas mal, un type bien, un type courageux, il n'a jamais tué deux gendarmes, donc il faut quand même être assez courageux pour tuer deux gendarmes, et un flic. Bon, c'est peut-être ça qui, d'ailleurs, arrange son cas. Non, non, c'est un type très bien, il est droit dans ses bottes, il l'a tartiné de compliments. Alors à la fin du journaliste, même, je crois que c'était sur France Info.
Ah bah oui, bon.
Et le journaliste, même sur France Info, a fini par être un petit peu abasourdi et il lui dit, mais vous avez envie de le rencontrer? Le gendarme a dit, non, non, quand même pas, parce qu'on est chacun dans notre camp.
Oh, oui, donc il joue au gendarme,
au tueur. Ouais.
Oui.
Mais quand on est dans une situation comme ça, dans un pays comme ça, tout devient possible.
Tout est possible, ça c'est sûr.
Moi je suis quand même un petit peu abasourdi, vous n'êtes pas un petit peu abasourdi?
Ah bah, c'est...
On s'attend à tout. Hein. Mais ça, non, ça a l'air d'outre-vous, ça vous émeut pas. Vous allez voir le jour où vous allez être arrêté pour avoir tué un gendarme.
Je suis contente d'avoir vendu ma voiture, ça je suis heureuse, je suis avoir une voiture, je suis tranquille.
Vous avez l'intention de tuer un gendarme et une voiture.
Pas comme ça, j'ai plus de tentation au moins. Et puis en plus, je risque pas de me faire agresser par les voyous qui traînent dans tous les quartiers, comme la petite dame de l'autre jour.
Et le carjacking.
Qu'est-ce que c'est?
Mais elle n'a plus de voiture.
Des sous.
Je m'aperçois que je n'ai pas présenté les personnes présentes, si j'ose dire. Alors,
on nous aura reconnus comme le chauffeur d'autobus vous a reconnu. Voilà.
Je suis troublé par l'absence de mon camarade Goffman.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Il a déserté, là.
Tout est dépeuplé. Oui, je sais pas. Je sais pas ce qui lui arrive.
Il vous aime plus?
Je me demande s'il n'a pas réintégré.
C'est la Saint-Valentin.
C'est la Saint-Valentin.
Et tout est dépeuplé.
Ah, oh, oui.
Anguille sous roche.
Il y a Anguille sous roche. Bien, alors, qui sont là, Victoria, vous l'avez reconnu. Le Marquis, que vous avez sans doute reconnu.
Bonsoir.
Jean-Pierre Rondeau, que vous avez reconnu également.
Bonsoir.
Et puis, Benoît.
Bonsoir.
Non pas Benoît Brisefer, mais Benoît Mancheron, que vous vous reconnaîtrez bientôt, parce que vous allez bientôt avoir une émission sur cette radio.
Le même jour.
Le même jour que moi.
Mais le matin.
Mais c'est Noël. Ce sera mercredi, ce sera Noël.
Ça, c'est le plus beau jour de la radio.
Comme
depuis le début.
Alors, Benoît Mancheron est éditeur. Et il est éditeur de qualité. Ce qui est... Il a un goût fort, je peux le dire, puisque c'est lui qui a conçu le... Tiens, ça me permet de placer un peu de pub. L'excellent catalogue des nuisibles que j'ai écrit.
C'est remarquable bouquin.
Remarquable. Une série de... Enfin, c'est bien, quoi. Moi, je le lis, je me dis, qu'est-ce qu'il a comme talent, ce type, vraiment. Et donc, je parle de Benoît, là, qui a...
Portrait,
qui a
bien sûr.
Conçu l'extérieur. Il m'a dit, l'intérieur, je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans.
Tu vois, confiance à l'auteur.
Je te connais trop. Maintenant, je me tourne vers Jean-Pierre Rondeau, parce que je voudrais vous poser une question. Vous avez provoqué un début de polémique récemment. On m'a dit, Jean-Pierre Rondeau a envoyé un message. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé?
J'ai deux coups de gueule à pousser ce soir, mais sur le même, pratiquement sur le même sujet. D'abord, je tiens à dire que c'est un personnage qui est passé ici.
C'est moins grave qu'individu, mais
c'est un personnage qui est passé ici dans une émission qui est tenue par deux amis. Je me permets de dire deux amis, en tout cas par une dame, une grande dame, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et par un copain, un de mes grands copains.
Dame qui est le féminin de Benoît.
Je cherche, mais non, a priori non.
Benoît.
C'est pas Benoît.
Que j'étais dans l'émission.
Non, ce sont deux amis plus proches et qui étaient sur l'assurance vie. Et donc il a été reçu ici un garçon qui se prétend défenseur donc des bénéficiaires de contrats d'assurance vie et qui se prétend donc aussi défenseur des souscripteurs de contrats d'assurance vie. Alors
ça s'arrange pas, un personnage qui se prétend.
Alors, la première des choses que je voudrais dire, c'est que d'abord, le discours de ce monsieur a été un discours mythomane, c'est-à-dire qu'il a prétendu avoir forcé à passer des lois qui sont passées sans lui. Je suis d'autant mieux placé pour le savoir que je travaille moi-même directement avec la direction avec la FFSA, la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, avec l'AMF qui est l'Autorité des Marchés Financiers, qui a remplacé donc la COB essentiellement, et puis avec Bercy donc sur les problèmes de législation. Donc premièrement, il a prétendu avoir fait modifier une loi qui est passée sans lui en décembre 2005. Ensuite, mythomane parce que sur son site, il a trois sites. Sur son site, il produit des lettres de complaisance que lui ont répondu certains députés. J'ai des mêmes députés. D'ailleurs, c'est assez curieux. Je remarque que sur des sujets aussi divers que l'assurance vie ou par exemple la communauté des pieds noirs ou des harkis, on a les mêmes députés qui répondent toujours les mêmes phrases. Et ce sont toujours 4-5 députés qui font les mêmes réponses. Donc, ils publient ça. Ce sont des réponses en disant, je m'occupe de votre cas, et on pose quelquefois une question à l'Assemblée, mais on voit que c'est une réponse tout à fait politique. Donc ce monsieur n'a pas fait grand-chose, premier point. La deuxième chose, c'est qu'il a...
Moi, il n'a pas fait de mal.
Voilà, il trompe les auditeurs, puisqu'il a dit sur cette radio qu'il ne prenait pas d'argent. Or, il a trois sites. Son premier site est une association sur laquelle il prend une cotisation de 20 euros. Son deuxième site est un fichier dans lequel il est écrit le coût de la conservation des informations est modeste par rapport aux honoraires d'un notaire, donc il prend encore de l'argent. Et son troisième site est un site qui sert à pour défendre donc les bénéficiaires de contrats d'assurance, pour retrouver donc à ces gens qu'ils sont propriétaires d'argent perdu. Il est prêt à mettre en relation donc des notaires, des généalogistes, etc. Donc c'est évident en prenant sa commission au passage,
c'est l'or des sites en ce moment.
Voilà. Et puis il est capable de vous trouver des assureurs pour avoir de meilleurs contrats que de. Alors tout chacun est libre de faire son métier. Je fais le mien d'ailleurs, mais en tout cas dire qu'on prend pas d'argent, je trouve ça assez trompeur.
Il le reçoit simplement. Voilà.
Il le prend pas, on lui donne.
Voilà. La troisième chose, c'est qu'il est peu sérieux. Et pourquoi ? Parce qu'il a avoué lui-même avoir envoyé un livre plein de fautes d'orthographe au président de la République pour l'interpeller. Donc il a dit lui-même. Et si on va sur ses sites, on voit d'abord qu'ils sont pleins de fautes, alors qu'il se prétend aider de tas de professionnels qui, si c'était le cas, pourraient lui corriger les fautes. Et puis c'est le côté BD de son site quand on voit qu'il s'adresse quand même à une clientèle plutôt fortunée, plutôt âgée, censée. Censé l'aider.
C'est dommage que l'hiver soit pas froid parce qu'il est habillé là.
Voilà. Les derniers points, et c'est les plus importants, c'est qu'il a dit un tas de bêtises sur l'assurance vie. Et ça, c'est quand même dangereux. Vous le savez que je m'étais élevé par le passé contre un certain chef d'émission qui avait tendance à détruire l'assurance vie. L'assurance vie aujourd'hui, c'est en tant que technique, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, mais l'assurance vie est un des produits, quand on a des produits financiers, que ce soit du monnaie, de l'obligation des actions, ou quand on veut un produit garanti, il y a trois solutions. Soit on le fait de façon libre, avec une certaine fiscalité, et en payant des frais d'entrée, des frais de sortie. Soit on le fait à travers un PEA, mais c'est très limité, on peut mettre que des actions françaises et européennes. Et soit, si on veut pas de titre, si on accepte de pas avoir obligatoirement de titre en direct, dans un contrat d'assurance vie, on peut mettre l'ensemble des produits financiers qui existent. Et c'est ensuite, pour la partie garantie d'un contrat d'assurance vie, la seule techniques qui existent encore dans le monde entier, où on a une garantie par une compagnie d'assurance de vous rendre un certain capital. Et ça n'existe plus qu'en France. Donc je trouve que c'est assez dommage donc de détruire en permanence l'assurance vie, et notamment sur cette antenne, pour tromper les gens qui peuvent s'intéresser pour des tas de raisons, et pas simplement pour la transmission, mais aussi pour protéger simplement et utiliser à titre personnel leur patrimoine financier. Alors, il s'est étonné, ce type qui se dit spécialiste, qui a été d'ailleurs, qui est sorti d'une compagnie d'assurance, et je ne dirai pas ici comment il est sorti de cette compagnie d'assurance.
Par la porte,
mais il s'étonne de l'existence de la clause de bénéficiaire acceptant. Oui, on peut être bénéficiaire acceptant d'un contrat, c'est-à-dire...
Alors, expliquer parce que là...
Voilà, on peut, quelqu'un vous a mis bénéficiaire d'un contrat, vous pouvez écrire à la compagnie et dire que vous êtes bénéficiaire acceptant. Et il est vrai qu'à ce moment-là, la personne qui a souscrit le contrat ne peut plus rien faire sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Voilà.
Donc c'est... si je me fâche, pas moi qui ai rendu le marquis bénéficiaire de mes nombreuses
S'il écrit à la compagnie, vous ne pouvez plus retrait, faire un arbitrage, changer de clause bénéficiaire, demander une avance sur votre contrat. Mais il y a, je vais y revenir, un moyen d'échapper à ce risque. Et surtout, la clause bénéficiaire acceptant, eh ben, elle existe parce que quand on désigne un bénéficiaire de contrat, on fait une stipulation pour autrui. C'est un terme juridique qui existe. Et c'est ce qui rend les contrats d'assurance insaisissables, donc même par le fisc. Donc, dire qu'on ne sait pas, quand on est assureur, quand on se prétend avoir pratiqué l'assurance, qu'on ne sait pas ce que c'est, que pourquoi il existe une clause de bénéficiaire acceptant, c'est quand même dommage.
Pardon de vous couper, mais moi qui n'y connais rien, ça veut dire que si je souscris une assurance vie...
Oui.
Donc le système, arrêtez-moi si je dis une bêtise, ça va être le cas d'ailleurs immédiatement, je mets de l'argent sur un compte.
Absolument.
Régulièrement.
Voilà, un contrat.
Mettons 100 euros par mois. Bon.
Et puis, ou un capital d'un seul coup, ou un gros capital.
Ou un gros capital. Un à partir de ce moment-là, l'argent que j'ai mis sur cette assurance vie, pas touche.
Si, le fisc, vous pouvez en faire ce que... Oui, à partir vis-à-vis du fisc, absolument. Personne ne peut saisir un contrat d'assurance si vous avez mis un bénéficiaire.
Mais c'est génial votre truc.
Mais bien sûr.
C'est génial. C'est pour ça que je pense.
Mais vous imaginez en plus, vous pouvez retirer de l'argent comme vous voulez.
Oui, mais sauf si la personne qui est bénéficiaire.
Avec l'accord du bénéficiaire.
Non, vous n'avez pas à lui demander l'accord s'il ne sait pas qu'il est bénéficiaire ou s'il n'a pas écrit à la compagnie pour dire qu'il est acceptant. Mais vous n'avez pas besoin de lui demander son accord.
C'est-à-dire que moi, quand je touche mon modeste salaire.
Vous le mettez là, on ne peut pas vous.
On me dit donc, c'est extrêmement intéressant tout ça.
Voilà. Mais, alors, comment on évite cette difficulté de la clause de bénéficiaire acceptant? C'est quelquefois, en n'en parlant pas aux bénéficiaires, en n'en parlant pas à ses enfants, en ne désignant pas. On peut aussi mettre un papier dans un coffre à la maison ou à la banque en disant que les bénéficiaires de votre contrat, il faut bien sûr prévenir la compagnie que sont désignés dans une lettre que vous avez remis à tel endroit. Vous pouvez les remettre à un tiers, à une tierce personne. Et la meilleure solution, celle que nous préconisons tous, c'est de remettre à un notaire, c'est-à-dire de faire une espèce de testament qui est hors testament classique, qui est une lettre qui coûte chez un notaire 100 euros ou 150 euros. Et vous envoyez une simple lettre à la compagnie en disant, voilà, j'ai le bénéficiaire de mes contrats ou les bénéficiaires de mes contrats sont désignés dans une lettre mise à Maître Dupont. Et si le bénéficiaire acceptant écrit à la compagnie en disant, eh bien, moi je suis bénéficiaire acceptant, la compagnie va lui répondre, on ne sait pas qui est bénéficiaire puisque c'est ça, dans une lettre qui ne sera ouverte qu'au moment du décès de la personne. Donc, le risque, effectivement, existe, mais vouloir annuler cet effet, c'est complètement tuer l'assurance vie, tuer le système de l'assurance vie. Ensuite, il a prétendu qu'il y avait, alors ça et ça, le maintenant
c'est
je rejoins, maintenant je rejoins une émission qui a eu lieu hier avec un certain ancien responsable de l'UMP qui est aujourd'hui le médiateur, donc pour le médiateur. Hein. Alors quand on dit médiateur, tout de suite on pense à quelqu'un de très très âgé, un peu avec une grande barbe. comme le, comme mon voisin qui va être un sage. Je rappelle simplement que c'est Monsieur Delevoye. Monsieur Delevoye a été le président des maires de France et a été surtout le candidat battu par Madame Parmam à l'UMP pour prendre la présidence de l'UMP.
Pour donc ça qu'on lui a donné la médiation.
Donc il a la médiation. Et ce monsieur qui est le médiateur vient de sortir un rapport sur les compagnies d'assurance disant qu'elles ont des milliards d'argent qui n'est pas, ne sont pas eux, ce sont les fameux contrats en déshérence, mission qui est donc que ce monsieur qui était l'invité de Radio Courtoisie il y a 13 jours exactement se disait pouvoir défendre et battre en brèche. Donc on pense qu'aujourd'hui il y a quelques 1 à 5 milliards de contrats en déshérence, c'est-à-dire de gens qui sont bénéficiaires de contrats et qui ne le savent pas et tout ça. Mais je voudrais donc, j'en ai pour 2 secondes, hein, je rappelais juste quelques chiffres que j'ai rassemblé pour vous, Serge. Donc je rappelle, hein, vraisemblablement à 5 milliards. Les contrats d'assurance vie en France aujourd'hui, c'est 1004 milliards d'euros aujourd'hui en France. Et quand on parle de contrats en déshérence, c'est en déshérence sur 30 ans, sur 30 années de, puisque au bout de 30 années, la déshérence, l'argent passait dans le pot commun. Mais donc c'est sur 30 ans, il y a 1 à 5 milliards de déshérence. Mais aujourd'hui, l'encours des contrats d'assurance, c'est 1004 milliards d'assurance. Les cotisations de l'année 2005, c'est 121 milliards qui ont été investis rien que pour l'année 2005. Je parle de l'assurance vie. Hein. Et les compagnies en produits financiers ont replacé 110 milliards. Hein. On a acheté des SICAV ou des obligations, etc. Juste trois petits chiffres. La France, donc, j'ai dit combien c'était. J'ai les chiffres de 2004. Mais en 2004, c'était 105 milliards d'euros de versés de primes. L'Allemagne, c'était 68 milliards. L'Italie, c'était 65 milliards. Et le Royaume-Uni, c'était 151 milliards. Pour l'ensemble de l'Europe, 551 milliards. En moyenne par habitant, le Luxembourg, c'est 17 423 euros par habitant. En Suisse, c'est 2623. En Grande-Bretagne, c'est 2548.
Je peux vous interrompre une seconde? Pourquoi il y a des différences comme ça? 17 000 au Luxembourg, 2000 en Suisse?
Parce que le Luxembourg, c'est une population plutôt riche et parce qu'ils ont compris aussi l'intérêt d'avoir des contrats d'assurance-vie, ouais. C'est tout. Hein. La Grande-Bretagne est très en pointe, etc. Et je vous dis, aussi bien au Luxembourg, alors que un chef d'émission ici prétendait qu'il fallait casser son contrat d'assurance en France et partir au Luxembourg, Luxembourg, la formule garantie dont on parlait tout à l'heure n'existe pas au Luxembourg. On peut avoir des fonds communs, des SICAV, ce qu'on appelle en assurance des unités de compte, mais en ayant un risque de marché, un risque de
si les actions montent ou descendent. Hein,
tandis que quand vous êtes sur le support euro d'un contrat d'assurance, vous êtes en sécurité. Donc la France, c'est seulement 1750 euros par habitant. Et juste pour préciser, c'est que les compagnies ont payé en 2005, elles ont payé en 2004 165 milliards d'euros de sinistres pour l'ensemble de leurs sinistres. Donc vous voyez que les compagnies n'ont pas besoin de ces quelques milliards qui n'ont pas été attribués. Alors il y a eu, et c'est vrai que je suis pas là pour défendre les compagnies et on s'est battu suffisamment avec contre elles et tout ça, mais aussi on travaille avec elles. Et donc aujourd'hui le monde est en train de se civiliser.
Il y a
la protection du consommateur intervient grâce à la meilleure information des publics, grâce aux journaux.
Peut-être prévenir les Iraniens, les Irakiens, les Libanais.
Grâce aux journaux financiers, grâce aux journaux de consommateurs, donc et grâce aux professionnels qui se civilisent un peu plus. Aujourd'hui, bon, il y a eu des abus, il y a toujours des abus. Mais se servir de ça pour détruire l'image de l'assurance vie et pour détruire et pour appâter des gens, et notamment dans mon cas, quand ce sont des auditeurs de Radio Courtoisie, de leur foutre la panique et de les inciter à aller casser des contrats, je ne parle pas de ce garçon qui, lui, a comme objectif derrière d'en faire souscrire, mais je parle de l'ancien président d'émission. Je trouve ça assez, pas très bien quand on est d'une famille, qu'on pense être un peu de la même famille. voilà.
Il a cru qu'on irait avec
du bleu. Il a par exemple raconté que les compagnies n'étaient pas informées du départ, du décès des gens. Les compagnies ont maintenant l'obligation d'écrire aux titulaires de contrat chaque année. Vous recevez chaque année au moins un relevé de votre compagnie d'assurance. Et donc, soit l'héritier a piqué le courrier, et donc, a priori, s'il est bénéficiaire, il viendra voir, ou en tout cas, s'il ne sait pas s'il est bénéficiaire, il viendra voir la compagnie. Et sinon, le courrier revient en ce qu'on appelle DCD, PSA ou NPAI, n'habite plus à l'adresse indiquée, et donc la compagnie va réagir. En plus, je le disais tout à l'heure, il y a une loi qui a été votée en décembre 2005 et qui fait qu'aujourd'hui, les compagnies ont obligation. Alors, il y a des queues, tout n'est pas rose, mais je vous dis, ces 5 milliards, c'est sur 30 années, et c'est beaucoup par le passé. Autre bêtise qu'il a dit, par exemple, que dans les assurances qu'on obtient au niveau de l'entreprise, il y avait souvent des clauses bénéficiaires qui n'étaient pas rédigées. Moi, je sais que j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises. On avait des contrats collectifs de salariés. Et dès qu'on rentrait dans la compagnie, on vous faisait rédiger une clause bénéficiaire. Et on savait que quand on se mariait ou quand on était prévenu, d'ailleurs, par souvent la direction du personnel, on vous demandait à revoir éventuellement les clauses bénéficiaires. Il a aussi protesté pour le fait que pour les personnes protégées, les enfants notamment, ou les handicapés, on mettait mes héritiers. Ben, c'est normal. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse désigner pour une personne qui est rentrée en Alzheimer ou pour un enfant un bénéficiaire, c'est à lui, ça sera à lui. Et donc la meilleure protection plutôt que de choisir un frère par rapport à un autre, une sœur, une belle-mère, etc., la meilleure des protections, c'est de mettre mes héritiers, et c'est, je pense, une bonne formule, et notamment dans des couples diverses, quand des couples divorcent, si un enfant a eu un accident, par exemple, il reçoit une indemnisation, eh bien, il vaut mieux il vaut mieux mettre mes héritiers, et c'est la meilleure protection. Bon, après, il a cité des tas de cas, je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je veux dire, je tiens à disposition une lettre de 4 pages pour ceux qui voudraient avoir des renseignements, et j'alerte donc beaucoup de gens, parce que j'ai même entendu quelqu'un des auditeurs qui a passé un message en disant l'assurance vie c'est les emprunts russes. Je trouve que c'est voilà, je trouve ça assez ridicule, et ça fait partie de la désinformation qui a existé pendant longtemps.
Mais vous expliquez ça comment, cette désinformation? C'est simplement de la méconnaissance du sujet, ou
je pense que dans le cas trois solutions. Il y a eu un premier cas ici, c'était un de mes grands copains, c'est un bon professionnel, il avait la haine de l'euro et il est passé en 2000, et quand il a dit que l'euro allait faire faillite.
Oui.
Et donc les auditeurs ont téléphoné ici en disant mais moi j'ai un contrat en euro, contrat d'assurance. Alors emporté par sa haine de l'euro, il a dit cassez tout, achetez du dollar et des actions américaines. Absolument. C'était en 2000, je peux vous dire que moi je connais 4 auditeurs de Radio Courtoisie qui ont perdu pas mal d'argent, parce que la bourse a baissé de 40%, les actions, et le dollar a baissé de 20% entre-temps. Mais lui, il a fait par simple colère et sans trop réfléchir.
Par contre,
il a existé ici un chef d'émission. Je pense que c'était... Vous savez, quand on vend des livres, quand on vend une association, si je vous dis j'ai fait un livre sur la finance, je suis persuadé que très peu de gens vont me l'acheter. Par contre, si je dis que demain c'est la catastrophe, le déluge, et que tout va s'écrouler, que vous allez être ruiné à travers le compte restaurant, je vais avoir quelques clients et je vais avoir quelques personnes pour acheter mes bouquins, etc. Pour le troisième, c'est parce que lui, c'est un but commercial total. Il a monté 3 associations qui sont pour moi bidons. D'ailleurs, il a dit qu'il n'avait pas les moyens, qu'il n'avait pas ouvert de compte exprès pour. Je vous ai dit qu'il prenait des cotisations, donc théoriquement, il doit avoir des comptes,
Ça peut-être sur un compte d'assurance vie.
Mais c'est peut-être. De toute façon, il propose dans son troisième site, il propose derrière de vous mettre en relation avec des courtiers d'assurance. Donc voilà.
Et ben voilà, les choses sont éclaircies maintenant. Alors il y a des questions, Victoria.
Oui, question d'un auditeur. L'assurance vie est-elle imposable sur la fortune?
Oui.
Réponse rapide.
La seule chose, c'est dans les bons de capitalisation qui ressemblent à l'assurance vie, on peut éviter, on ne rentre dans l'ISF que le nominal de départ, les primes qu'on a versées, et pas les plus-values derrière.
Et dans l'assurance vie, quel est le pourcentage d'emprunt d'État?
Alors, j'avais fait le calcul pour Serge il y a quelque temps. C'est là qu'il existait un mensonge, donc puisque on disait sur cette antenne qu'il fallait casser l'assurance vie puisque tout était en emprunt d'État et que l'État allait saisir. Aujourd'hui, 60% des contrats sont mis dans le fameux support euro et 40% sont mis dans des unités de compte. Donc, c'est le support euro auquel il faisait référence. Le support euro, donc, dans ces 60%, il y a 30% à peu près qui sont de l'immobilier et des actions. Et dans le reste, il y a la moitié d'emprunts privés et la moitié d'emprunts d'État. Et dans le reste, dans les emprunts d'État, il y a aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de risque euro, il n'y a que la moitié qui est en emprunt d'État français. Donc aujourd'hui, la plupart des contrats support euro, donc d'assurance vie, c'est moins de 20-25% et c'est souvent moins de 20% qui sont en emprunt d'État. Et je rappelle, je l'ai dit ici déjà sur cette antenne, que 55% des emprunts d'État français sont achetés par des Américains, les fonds de pension américains sont achetés par les Chinois, sont achetés par les princes arabes du pétrole, et donc voilà. Alors bien sûr je vois mal l'État nationaliser tout ça, mais le monde peut s'écrouler sur notre tête, on peut attendre toute sa vie comme dans le désert des Tartares, hein, on peut attendre toute sa vie, je dis pas que ça peut pas arriver, je dis que le placement d'assurance vie et sur sa partie garantie est un des meilleurs placements financiers qui existent. Voilà.
Alors, il y a une question qui s'adresse à Jean-Pierre Rondeau, mais je vais y répondre, si vous permettez.
Oui.
Je peux devenir spécialiste.
Il devient un grand financier, Serge.
C'est quelqu'un qui dit, que pensez-vous de quelqu'un qui conseille de liquider ses comptes d'épargne et d'assurance vie pour acheter des actions Eurotunnel? Alors, je réponds, monsieur, pour toutes les questions qui sont relatives aux investissements, c'est pas le journal de Miguet qu'il faut lire.
Voilà, absolument, c'est ce que j'allais dire.
Il faut lire des documents.
Eurotunnel, c'est jeter une pièce en l'air, avec un peu de peau, un peu retombé du bon côté.
Un auditeur vous dit, l'assurance vie va ruiner les Français.
Ouais, voilà.
Les provisions mathématiques sont prêtées à l'État. Et comme l'État court à la ruine, les Français...
Je viens de dire que l'État, c'est 20% ou 25%, et je viens de dire que 55% sont achetés par les étrangers. Donc il va ruiner les fonds de pension américains, et il va ruiner effectivement le... Voilà.
Alors, je voudrais lire un truc qui n'a absolument rien à voir, mais qui me paraît tellement démonstratif de certains messages qu'on reçoit. Et parce qu'on nous dit, vous ne lisez pas tous les messages. Alors là, je vais vous en lire un qu'on ne lit pas normalement. Mais parce que feu Jean Ferré, dont je salue la mémoire, Dieu sait que je me suis moqué de lui quand il parlait des officines. Mais là, c'est pas une officine, là, c'est carrément, vous allez voir, quoi, c'est... À Radio Courtoisie, seuls les libéraux et les réactionnaires soutenus par le FN ont le droit à la parole. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les forces bourgeoises et capitalistes se sont unies aux hordes asiates bolcheviques pour détruire le Troisième Reich d'Adolf Hitler, seul défenseur de la race blanche européenne.
Ah oui, c'est le sujet, là, on est en plein dedans. Là.
Alors, monsieur, vous voulez que je lise ça? Ben voilà, je l'ai lu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller tous en prison? Non, mais enfin, il y a des provocations plus malignes que ça, je vous le dis tout de suite, quand même. Hein,
c'est même pas de provocation, ça, c'est un petit plaisir qu'on se fait sous la lampe.
Monsieur Rondeau, pouvez-vous rectifier ce qu'a dit l'invité? Un invité de la semaine dernière, que l'on ne pouvait pas léguer sa fortune à une association.
On peut absolument et la léguer et la transférer à travers un contrat d'assurance vie. D'ailleurs, à ce sujet-là, il a été d'une bêtise, parce que je sais qu'il y a des auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont pas de famille et qui mettent comme bénéficiaire Radio Courtoisie. Je tiens à préciser que si on veut mettre Radio Courtoisie, ça marche pas. Il faut mettre le nom de l'association.
CDRS.
Donc, la compagnie d'assurance risquerait, bon après on pourrait toujours plaider, etc. Mais s'il était écrit Radio Courtoisie, ça ne marcherait pas. Il faut que ça soit derrière une vraie entité.
Mettez deux becquets. C'est voilà. Beaucoup plus simple, je transmettrai.
Je suis en train d'y penser. Hein?
Un auditeur vous dit encore, l'invité en question aurait pu préciser qu'il y a un organisme créé par les compagnies d'assurance pour rechercher les assurances vie en déshérence. À Girard, rue Lefebvre.
Bah oui, absolument. Absolument, mais donc elle existe depuis un an et elle commence à marcher. Mais il y a d'autres associations d'ailleurs, et j'ai même eu dans mes locaux un garçon il y a quelques années qui est sorti un peu rapidement. Je vous dirai tout à l'heure le nom.
Oui, parce que les invités mystères.
Non, mais je dirais. Parce qu'il avait monté une association de défense des assurés déjà à l'époque.
Et alors, un conseil, il suffit de changer la loi et d'indiquer que la cause d'acceptant du bénéficiaire ne pourra être acceptée par la compagnie d'assurance qu'à l'issue du décès du contractant PAL.
Mais non, ça n'aurait aucune utilité. Par contre, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on est en train de travailler dessus. C'est pour que, mais pour l'instant, ça a été un peu repoussé parce que ça soulève d'autres complications. Mais c'est de faire qu'on ne puisse accepter un contrat qu'à condition que le souscripteur du contrat ait marqué lui-même son accord au moment où la compagnie reçoit la lettre d'acceptation. Voilà.
Alors, on change de sujet. Pense sur le Bécatch. Vous venez de parler d'une arme de sixième catégorie.
Ouais.
Une arme à feu. Oh, oh, oh. Si c'est une arme de sixième catégorie, c'est une arme blanche. Une arme à feu est soit de première, soit de quatrième catégorie.
Je sais que c'était une arme à feu, en tout cas, puisqu'il a tiré sur le malheureux monsieur. C'est consigné dans le... Dans
de surcroît porteur d'une arme de sixième.
Ah, c'est possible aussi, oui.
Il a peut-être lancé en plus les couteaux.
Hein. Il avait peut-être un couteau dans la poche et un revolver dans la main.
À propos de...
Normal, c'est normal, c'est minimum.
À propos de Monsieur Bidard.
On est vu dans un tel pays d'insécurité maintenant, tu comprenais. Hein, les voyous risquent d'être abattus par les policiers à n'importe quel moment. Alors, ils sont bien obligés de s'armer pour se défendre.
Oui. À propos de M. Bidard, aux auditeurs ont la parole. Il y avait la veuve d'un des policiers. Elle n'avait pas été informée que l'assassin de son mari allait être remis en liberté.
Ça ne la regarde pas.
Et sur RTL, à midi, il y avait aussi le frère d'un autre gendarme assassiné par ce Bidard. Il était plutôt en colère.
Oui, ben ça, moi, je serais en colère aussi. Je veux dire, je trouverais la plaisanterie moyennement drôle, quand même.
Alors, ça, c'est la linguistique est au pouvoir.
Ah.
Sur la chaîne parlementaire, un des présentateurs a parlé de 100 euros ce matin. Jolie liaison.
Ça, c'est...
Et moi, j'ai entendu l'autre jour parler de l'océan Atlantique.
L'océan Atlantique.
C'est les gens qui ont peur de ne pas faire les liaisons comme il faut. Un auditeur se plaint de ne pas avoir entendu le numéro de téléphone de Radio Courtoisie dans l'annonce par cause interruption du son à ce moment-là. Je le répète donc, 01 46 51 00 85. Et puis alors maintenant, une question pour vous, monsieur de Bécatch. Puisque monsieur Goffman n'est pas là, j'aimerais que vous nous parliez de maître Terkem, avocat fondateur de SOS Racisme, qui a été interpellé pour avoir brossé sa femme. Il avait
J'attendais que Goffman en parle.
De Patrick Goffman.
En plus, en parler le jour de la fête des amoureux, c'est quand même...
Oh là 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 là.
Non, mais c'est comme ça, c'est peut-être qu'il a voulu lui souhaiter la Saint-Valentin.
Il lui a fait sa fête.
Voilà. Oui, si on ne peut plus battre sa femme, alors où va-t-on, vous comprenez?
Daniel, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est Daniel qui frappe.
Bien, alors...
Et alors, attendez, une question de politique, bien fait. Que pensez-vous du boycott de la presse après l'émission de Jean-Marie Le Pen sur la 2 jeudi?
Ben, j'en pense qu'elle est dans la logique des choses, puisque d'abord, il a été absolument excellentissime.
Excellentissime.
Vraiment remarquable, il faut le dire. Pourtant, je ne l'aime pas, hein.
Non, c'est vrai.
Alors là, donc là, je suis complètement désintéressé. C'est pas un copain. Hein. Donc c'est complètement
gratuit,
quoi, ce que je dis vraiment. Hein. Donc il a été excellent. Il est drôlement bon. C'est le meilleur de la bande.
Il a même
été
encore
très loin.
Lundi, c'était sur un ton différent.
Mais on avait lundi, c'était un homme d'État qui parlait. Après, on a eu affaire à une cheftaine de Louveteau, quoi.
Moi, j'ai coupé après.
Il a été applaudi par le public. Et donc ça, les gars, ils se disent, oula, qu'est-ce qui se passe
là? Parce que qu'on a fait.
C'était jamais arrivé. Ça n'était jamais arrivé pour une raison très simple, c'est que les gens se montrent le bourrichon en disant, si je manifeste mon accord, les autres vont dire que... Et là, il y a eu une espèce de catharsis, comme on dit. Tout le monde était d'accord, et top, tout le monde a applaudi.
Et ça leur fait drôle.
Et je crois qu'il y a autre chose qui va leur faire drôle, c'est le soir du 26 avril.
Ouais.
Je pense qu'ils vont avoir une bonne surprise. On va encore voir des tronches. Moi, ça, c'est un des plus beaux souvenirs.
C'est merveilleux, ça.
Je dois dire, la tête des mecs au Parti Socialiste, quand apparaissent sur l'écran...
Le résultat.
Les visages de Chirac et de Le Pen. Mais rien que ça, ça vaut le coup d'être vivant.
Madame Chabot a été un petit peu...
Oh, elle était bien, quand même.
Elle était très bien, très bien. Dans l'ensemble, c'était très bien. Mais elle a montré la photo de Le Pen aussi quand il a
pris
la nouvelle.
Ah oui, il y avait des vaches.
J'aime autant vous dire qu'il tirait un nez terrible. Ça se comprend. Ça se comprend, mais.
Pour tout le magasin, là,
ça se comprend. Si bien qu'il s'est regardé, il devait plus se rappeler. Il dit oh, ben, je suis pas gâté sur celle-là.
Les photos avec le bandeau et tout ça.
Non, ce n'est pas avec le bandeau.
Ah non, c'est
pas le bandeau. C'était le 22 avril quand le résultat, il arrive dans les moustaches.
Ah non, mais c'est vrai.
Il a pu avoir
C'est mon plus grand plaisir de ne plus être élu. Ouais. J'étais 18 ans élu. Et c'est de ne plus être coincé au dépouillement. Et d'être devant ma télé avec la bouteille de champagne prêt à...
Ah là, champagne, il a sauté. Alors, comme disent les racistes et soi-disant antiracistes, nous dit un auditeur, nous sommes tous égaux, alors respectons nos différences.
Joli, ça. Ça, c'est ce qu'on est lancé dans les papiers. Je vous fais mes petites annonces comme
Je ne ferai
pas la course tout à l'heure.
Vous voulez faire les annonces maintenant, mais les auditeurs ne sont pas du tout préparés. Ils vont même
non, ils n'ont pas les crayons.
Prenez vos crayons,
tout ça.
Voilà, MP3, tout ce que vous prenez ce que vous voulez, mais on va vous donner les annonces. Alors, maintenant, je me tourne vers Benoît Manchon. Enfin, dit-il.
Vous allez m'intimider.
Pour parler, alors, vous avez édité on invite l'éditeur ce soir parce que, il faut dire les choses, notre ami Daniel Raffard de Brienne n'est pas au mieux de sa forme. Alors, je vais tout vous dire parce que, il faut dire la vérité. Daniel a fait un petit, comment on appelle ça?
Un accident vasculaire cérébral. Et une double embolie.
Et une double embolie. Pulmonaire. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est parfaitement remis. Le chou fonctionne comme avant, et même, je dirais pas mieux, mais exactement comme avant, puisqu'il continue à donner des papiers extrêmement drôles au Libre Journal et tout. Mais il a un problème d'élocution.
Il ne peut plus s'exprimer, l'expression de sa pensée.
Et donc, quand je l'ai invité, il m'a dit, écoutez, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne parler de mon livre, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à parler, c'est fatigant, etc. Voilà. Mais je précise qu'il est en pleine forme et que surtout ça n'a eu aucun effet sur son intelligence,
sur sa capacité de raisonner,
son humour et tout, et d'ailleurs on lui fait toutes nos amitiés et j'espère que ça va s'arranger rapidement parce que du coup on peut plus aller boire un coup avec lui, on peut plus manger de la vache folle. Faut dire que ça il a bien cherché parce que c'était un client du Buffalo Grill.
Eh ben voilà, cherchez pas.
Alors et voilà. Bon, enfin qu'est-ce que je dis, c'est comme ça. C'est lui qui m'a fait manger de la viande surgelée. Non, décongelé.
Ben, je ne sais pas non plus.
Voilà. Traîné dans un Buffalo Grill. Vous rendez compte? Non, mais quand j'ai écrit avec Buffalo Grill pour protester, ils m'ont envoyé très gentiment un bon de 5 ou 10 euros, je ne sais pas. Ouais, c'est incroyable. En me disant que c'était valable tous les jours à midi, sauf le week-end, et dans l'établissement en question, pas ailleurs. Alors avec ça...
Oh là là. Oui, parce que ce sont des franchises pour une partie. Ouais. Donc, voilà. Vous savez que c'est une boîte française, quand même.
Oui, je sais. Il n'y a pas plus lieu de s'en vanter, hein, entre nous.
Oui.
Bref. Donc, alors on n'est pas là pour parler...
Petit livre de synthèse.
Oui. Il a fait un petit bouquin qui est... D'abord, alors sur le plan éditorial, je l'ai dit, il est très très bien réalisé parce que c'est très joli. C'est un carré noir, on a l'impression que c'est une boîte de chocolat. Hein.
C'est un carré noir, un carré blanc.
Ça s'appelle donc Les Croisades, Enquête sur les Croisades, voilà. Daniel Raffard de Brienne, Via Roman, qui est la collection ou la maison d'édition.
Qui est la petite maison d'édition dont je m'occupe.
Alors c'est très joliment imprimé sur du joli papier, petit peu ivoire. Avec un très joli caractère traditionnel. Oh, c'est du beau travail. Moi, j'aimerais bien un jour écrire pour vous un bouquin, si j'écrivais des bouquins.
Mais ce sont des petits... Ah. Vous écrivez amplement.
Mais non, c'est très joli comme objet. Alors,
l'idée, c'est de faire des synthèses extrêmes et relativement généralistes.
C'est que ça, mais on le fait, peut-être. Non.
Oui,
En plus joli. Donc... Quelle est
l'âme, l'esprit? Alors, Enquête sur les croisades, pourquoi ce thème? Daniel Raffard de Brienne en a eu assez d'entendre des repentants permanents en ce qui concerne les croisades. On a même pu penser que notre vénéré et disparu Saint-Père, n'est-ce pas, avait donné dans cette repentance au sujet des croisades. Il commence d'ailleurs par faire litière de ce mythe. pour aborder l'histoire des 8 croisades d'une manière extrêmement rapide, mais enfin suffisante en tout cas pour s'y retrouver. Et c'est pas facile de s'y retrouver dans l'histoire du Moyen Âge et surtout celle des différentes croisades, parce que entre évidemment ce qui a motivé les croisés de partir faire le pèlerinage d'outre-mer, enfin se croiser pour aller délivrer le tombeau du Christ, pour aller secourir tout simplement leurs frères soumis à la dimitude, c'est-à-dire à, finalement à des lois iniques, des lois musulmanes qui leur retiraient leurs droits, qui les empêchaient de, d'accéder à certaines professions, enfin je n'en dirai pas plus, et les embûches qu'ils ont pu rencontrer sur leur chemin, parce que Byzance a joué, bien évidemment, a joué son rôle. Enfin, je veux dire que Byzance a joué le jeu de cette délivrance du tombeau du Christ. Mais Byzance a aussi pensé à récupérer des territoires qui lui appartenaient aussi auparavant. Donc on imagine que les intérêts de l'Europe, de l'Occident chrétien et ceux de Byzance ont pu aussi malheureusement s'affronter dans cette grande aventure. Donc il n'était pas facile de retracer tout cela et de montrer en quoi la défense, la mémoire de ces chevaliers qui en général ont tout abandonné, leur famille, leur fief, à l'appel du pape, à l'appel de leur prince, parce qu'il faut jamais oublier qu'il y a eu un double mouvement, pour mener ce pèlerinage, ont été des gens qui ont permis à l'Occident d'éviter d'être sous le joug musulman pendant des siècles. Parce qu'on oublie toujours, et où on fait semblant d'oublier, que la religion musulmane est une religion expansionniste, c'est une religion de djihad, et que par conséquent, ces gens-là, enfin ces chevaliers chrétiens, ont tout de même permis de contenir en tout cas cet élan pendant des siècles. Donc voilà un peu l'esprit, si vous voulez, du livre de Daniel Raffard de Brienne.
Mais il y a une chose qui m'intrigue toujours quand on parle des croisades, c'est que d'une part on nous explique, alors là il suffit d'ouvrir les bouquins sur l'Europe musulmane, sur l'Espagne musulmane, on nous explique que la présence de l'islam en Europe a été formidablement créative sur le plan artistique, sur le plan sur la poésie, la médecine, ils ont tout apporté, la médecine, la poésie, la pharmacopée, la musique,
l'oreille,
ça c'est plus tard. L'architecture, la mosaïque, enfin pas la mosaïque mais le stuc, enfin tout c'est formidable. L'architecture arabo-andalouse est une pure merveille.
L'algèbre. Oui.
Donc oui. Il faut remercier les Arabes de nous avoir envahis pendant 7 siècles. C'est vraiment admirable. Oui. On leur a beaucoup, vraiment, moi personnellement, beaucoup de reconnaissance. Je le dis sans aucune arrière-pensée. Je suis encore plus reconnaissant qu'ils aient foutu le camp, mais je suis très content qu'ils soient venus. Voilà. Mais alors, de l'autre côté, quand nous, on va là-bas, alors nous, on apporte que la misère, la désolation, l'horreur. Donc oui. D'une part, les gens qui viennent chez nous, c'est très bien. Et nous, quand on va chez eux, c'est très mal. Il faudrait quand même qu'on m'explique ça. Je voudrais savoir comment ça marche dans la tête des...
Parce que nous, on n'a pas laissé l'Alcazar de Tolède.
Non, puis il faudrait surtout qu'on nous explique que pour la plupart, vous parliez d'architectes, vous parliez, mais la plupart de tous ces personnages viennent de la Grèce, viennent de Byzance, viennent de, et même la fameuse algèbre. On pourrait parler des origines de la langue arabe. Une langue que l'on estime très belle, puisqu'on dit que la langue coranique est très belle. Mais d'où vient la langue arabe? Quand on se dirige un petit peu vers la Syrie, quand on remonte un petit peu avant Mahomet, on comprendra que la langue arabe ne date pas, n'est pas venue sur un nuage, en lettres d'or, révélée à Mahomet. Donc il faut pousser un tout petit peu plus loin que le bout de son nez, et c'est ce que veut faire Daniel Raffard de Brienne. Il le fait sur ce sujet-là, comme il l'avait fait pour d'autres sujets, en s'inspirant de livres qui sont tout de même des références, parce que vous parliez de l'aspect de cet héritage, ce pseudo-héritage scientifique et autres. Mais il suffit de dire Jacques Hers, l'histoire assassinée de Jacques Ernst, pour voir que ça tient pas la route. Et René Grousset, dans son épopée des croisades, monumentale épopée des croisades, a largement développé tout cela. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, lire 350 pages ou lire 1000 pages, on ne le fait plus. On n'a plus le temps.
Vous avez un site internet qui résume ça très bien, avec 3 images et 12 lignes de texte. Et puis, après, vous avez des CD ou des DVD qui vous montrent, ou des jeux vidéo, tout ça. Donc, c'est pas la peine de lire, quand même. C'est fini de lire.
Et puis on aime la manière dont on parle Daniel Raffard de Brienne, parce qu'il le fait avec une petite ironie qui perce. Vous l'avez remarqué au fil des phrases, il y a une petite, il peut pas s'empêcher de lâcher un petit phrase.
C'est absolument typique de Daniel.
Il recule toujours.
C'est quand même un homme du 18e siècle. Oui, on sent bien le Candide, le faux Candide.
C'est un très bon argumentaire, en fait. Là, on prend plein d'arguments pour répliquer à cette espèce de bidonnage permanent. Qu'est-ce qu'il est beau, le Goffman, il arrive là, oh là là.
C'est la Saint-Valentin.
Ah, c'est la Saint-Valentin. Voilà, oh, qu'est-ce qu'il est beau. C'est dommage qu'on n'ait pas la télé.
T'as touché tes indemnités.
Il y a une webcam dans le studio, chef, il y a qu'à ordonner qu'on la tourne.
Il n'y a pas de webcam, malheureusement. Comment allez-vous, mon cher Goffman?
Comme vous le voyez, en courant, puisque je suis essoufflé. Voilà.
Vraiment, je suis impressionné par votre élégance. Je suis sûr qu'elle a dû coûter plusieurs...
Dis pas qu'elle est à carreau pour jouer aux dames.
Mais je vais vous dire combien elle a coûté, cette très belle veste. Elle a coûté 2 € à la kermesse de Saint-Nicolas. Et comment je l'ai eue, c'est que c'est ma taille, quoi.
Ah bah oui,
c'est un peu grande.
Les auditeurs prennent des notes.
Il y a une école plus haute que l'autre.
Elle a quelques défauts quand même. Un peu comme moi.
C'est l'histoire de Fernand Reynaud. Il faut essayer un drôle de montage.
Est-ce qu'on peut dire que ce petit bouquin ne coûte que 10 €?
Oui,
c'est gentil.
Non, mais c'est
vrai que le prix...
Moi, j'avais une idée pour ça. Je crois même que je l'ai écrit dans le livre journal. C'était qu'au lieu d'envoyer des cartes de vœux idiotes...
Oui, qui veulent...
Enfin, idiotes. Oui, pas forcément idiotes, mais des cartes de vœux qui sont raplapla, on met dedans meilleurs vœux. On achète ce petit bouquin et on l'envoie. Je faisais ça avec... Il y avait une collection comme ça. On trouvait ça dans des...
Présentoirs
tournants. Ça valait... je sais pas combien. 10 balles, 20 balles. Oui. Et on trouvait des textes. Petits... Alors, au lieu d'envoyer des vœux...
Ta collection Librio.
Voilà.
Oui, oui. Ça. Une page par personne.
Eh bien, c'est une très bonne idée. Alors, j'invite à le faire pour les vœux de l'année prochaine, parce que là, c'est un peu tard. Ou alors, il faut vite envoyer si vous avez des amis orthodoxes. Il vous reste encore... même orthodoxe. C'est fini aujourd'hui. Ouais, terminé. Bien, alors c'est un livre qui est paru aux éditions Via Romana. Qu'on peut se procurer à la librairie France Libre.
Oui, voilà.
Si vous avez des...
Daniel Raffard de Brienne viendra peut-être le signer samedi, s'il le peut.
J'espère qu'il pourra, ça veut dire.
Ça vous rappelle le titre pour les malentendants ou les retardataires?
Enquête sur les croisades. Je vous en informe.
Donc c'est Via Romana.
Voilà.
La voie droite, forcément.
La voie droite, oui. La Via Romana, c'est une belle...
J'ai une question.
Oui.
Quel patron d'émission va remplacer Benoît Mancheron et pourquoi?
Et pourquoi?
Non, personne ne remplace Benoît.
Benoît
Mancheron succède à
Pierre de Bréritzen.
À Pierre de Bréritzen.
Toutes les 4 semaines.
Oui.
Enfin, Pierre de Bréritzen qui nous a quittés depuis quelques temps.
Ce qu'on appelait naguère le délai de viduité a été largement respecté. Voilà. Là, il ne prend la place de personne. D'ailleurs, personne n'a
pour une émission qui s'intitulera Au fil des pages.
Très bien.
Voilà. Et puis alors, on vous demande aussi, pourriez-vous finir votre phrase concernant l'algèbre qui viendrait de Byzance Grecs?
Non, le zéro, c'est l'Inde. Hein. Le zéro ne vient pas du tout.
Les Arabes, dans leur mission civilisatrice, ont joué exactement. Non, mais ne riez pas, monsieur. Ils ont joué exactement le rôle.
Byzance, c'est pas l'architecture.
C'est exactement comme si vous disiez que le gars de chez Darty qui vous livre une cuisinière. Concourt directement à la qualité de la gastronomie française. Voilà, c'est ça. Ah, cette cuisinière vous a été livrée par monsieur Mohamed, livreur chez Darty, et donc ça prouve bien que s'il n'y avait pas eu les Arabes, on n'aurait pas une bonne gastronomie française. Bon, c'est ça l'histoire, ce sont des transporteurs, il faut les remercier. Je trouve ça très très bien. Moi,
L'architecte de la mosquée bleue. L'architecte d'un mosquée bleu, c'est un chrétien d'origine.
Mais exactement.
Bah oui, non, mais on l'oublie toujours.
De toute façon, pour travailler avec eux, il fallait se convertir. Alors, le gars, je convertissais.
J'ai raconté cette anecdote, mais il s'impose de la raconter. Là. Mon ami Ahmed, le philosophe arabe, là, comme celui de Coluche, me tannait avec Al-Jabra, Al-Sukhar et tous les l'infinité de mots arabes qu'il y a dans le français. Et je ne savais pas quoi lui répondre et je me contentais d'admirer. Jusqu'au jour où un lexicographe, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait au dictionnaire, m'a raconté que sa grande maison d'édition avait lancé le projet d'un dictionnaire des mots français d'origine arabe. Et l'avait laissé tomber la semaine d'après en constatant qu'il n'y en avait qu'une cinquantaine.
Mais ça, c'était les mots anciens, parce que maintenant, il y en a beaucoup.
Et donc là, c'était café, divan, mais là...
Et puis, il faudrait que les Arabes se réapproprient leur véritable histoire, leur véritable religion, leur véritable identité. Au fond, bon...
Je voudrais signaler à l'aimable assistante que Victoria fait de la rétention de messages, parce qu'il y a un message qu'elle n'a pas lu.
C'est mieux que de faire de la rétention d'eau.
Je donne ceux dont je ne suis pas sûr qu'il convient de lui lire.
Celui-là, franchement, je ne comprends pas que vous ayez hésité une seule seconde. Je dévore votre livre, Le catalogue des nuisibles, c'est un régal. Et ça défoule.
Mais j'ai peur de vous faire rougir.
Ah non, ça, c'est vraiment...
J'ai fini de rougir.
C'est quelqu'un qui a envoyé 25 euros franco. Alors, de Serge de Beckett, 4 place Francis, 75-010 Paris.
Probablement, oui. Ben oui, certainement, si elle le lit. Ou alors, elle l'a acheté.
Et les exemplaires sont tous dédicacés?
Oui.
Ah.
Si les gens le demandent. Sinon, pardon.
Supplément.
Alors, Sa Majesté Victoria a bonne mine de rallier les cuirs des autres. Elle qui nous sert imperturbablement depuis bientôt 20 ans. Un charapia galimatesque.
Oh là là.
Vous écoutez le livre journal de Serge de Beckett avec l'assistance de Victoria.
Moi, je lis.
Ce qui, en français normal, non courtoisien, signifie que Madame Victoria aide les auditeurs à auditer SDB.
C'est-à-dire qu'ils en ont besoin.
Eh bien, oui, c'est vrai.
Et elle n'a pas lu ce message-là.
Non, ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait dire à cet auditeur, c'est que Victoria n'a absolument pas le droit de sortir de la, c'est même pas du sillon, c'est de l'ornière qu'a tracé Jean Ferré quand il a écrit les textes de présentation des émissions et, par conséquent, elle se contente de lire. Alors, monsieur, quand vous portez atteinte, quand vous croyez
l'honneur
fustiger Victoria, vous portez atteinte directement à la mémoire de Jean Ferré, je suis obligé de vous le dire. Et quand après vous dites « Cabinet SDB Rondeau, faites-moi confiance hein ». Eh bien, je suis certain que l'assurance vie n'est pas du tout dangereuse. Deuxièmement, et tout aussi certain que personne n'ourdit de complot jamais, c'est que démentri, il n'y a pas de gnose. Troisièmement, il n'y a aucune officine et c'est de pure imagination. Tout va très bien qu'on se le dise. Eh bien, vous en avez menti, monsieur. D'abord, j'ai dit exactement le contraire. Il y a bien des officines. J'en ai la preuve maintenant, mais j'y croyais pas avant. Maintenant, j'y crois. Et quant à cabinet SDB Rondeau, ça, je vois l'arrière-pensée.
C'est une idée, on pourrait.
Ouais.
Ça ferait une belle plaque. Hein.
Ça ferait une belle plaque. Ouais, voilà. Tiens, à propos de plaque, puisque vous avez pris la parole, Marquis. Oui.
Une plaque à vélo.
Vous avez passé combien de temps au Vietnam?
Non, je n'étais pas qu'au Vietnam, je suis resté 3 semaines en mer de Chine. Donc je suis allé au Vietnam, au Brunei, à Singapour, à Hong Kong, à Bornéo, enfin voilà.
Tous les détails dans un feuilleton du Libre Journal,
ouais,
à partir du prochain numéro.
Tu parles du Vietnam quand même, parce que
le Vietnam,
c'est quand même c'est fascinant pour des Français.
Et bien justement, ce qui est très plaisant au Vietnam, c'est à l'inverse d'autres endroits où nous sommes allés, c'est qu'on nous regrette, et en tout cas qu'on nous dit merci, qu'on est très gentil, qu'on est très heureux de vous emmener visiter la poste construite par Eiffel. Enfin, il y a vraiment une sympathie pour les Français. Les noms de rues n'ont pas été changés.
La rue Katina, camarade.
Eh bien, c'est quoi ça?
Vous l'avez écrit, je viens de lire, le lire dans votre article.
Oui, non, attends, je
mais c'est de lui qui écrit. C'est pas lui qui les écrit. Hein.
Bon, alors.
Je sais pas qui c'est,
alors.
Elle est devenue une doc moyeux, je sais pas quoi.
Non, mais non, les noms sont restés. Il y a peut-être un ou deux qui ont été changés, mais il n'y a pas eu une éradication de tout ce qui était français. Tu rouspètes quand on me laisse pas parler. Le jour où j'ai la parole, tu fais tout pour que je me prenne les pieds dans le micro. Je te remercie.
Ça peut être... allez-y, continuez. Allez,
on va finir par sur la gueule. Alors, bref, bon, puis si vous voulez, je vous parle du Vietnam. Pour résumer très vite, eh bien, on n'aime pas les Américains, on aime bien les Français. Quoi.
Ouais. Ouais. Mais on a un abonné au Vietnam qui est venu nous voir l'autre jour, qui écoute d'ailleurs Radio Courtoisie sur son ordinateur préféré.
Un de nos abonnés
au Vietnam, oui. Ouais. C'est lui qui est venu à Paris récemment et qui me racontait que c'est quand même un pays assez particulier. C'est resté une dictature totalitaire.
Oui, mais d'accord.
Ça ne se voit pas pour les
Ça se sent pas pour nous. Quoi. Bon, pour eux,
alors, il me racontait la chose suivante, c'est qu'il a monté une entreprise là-bas. Et il a un de ses cadres qui récemment, pour ce qu'il a fait, il a dû faire une faute de conduite... stationnement interdit ou je ne sais pas. Il a donc été convoqué au commissariat et quand il est arrivé au commissariat, on a posé sur le bureau devant lui son dossier. Et son dossier, il faisait à peu près 60 kilos. Le gars étant arrivé 3 mois plus tôt.
Ils l'ont suivi.
Et alors il a découvert, quand on a ouvert son dossier devant lui, que la police savait tout sur lui, mais heure par heure.
Ouais.
En disant, à tel jour, il s'est levé à telle heure le matin, il a pris son déjeuner, il a mangé ça, il a vu telle personne le matin, il est allé déjeuner dans tel restaurant avec telle personne, il a payé tant.
C'est le film La vie des autres, là.
C'est ce que j'allais dire. Je l'ai vu il y a quelques jours, je l'ai vu dimanche soir, au milieu d'une foule incroyable. Je suis allé au cinéma dimanche soir en croyant être tranquille dans la salle. La salle était bourrée. Excellent film, premier ordre, sur justement ce que vous venez d'évoquer. De Bekech, le fonctionnement de la police stalinienne dans tous les détails, l'efficacité allemande, filmé avec l'efficacité allemande, c'est un film extraordinaire.
Il y a 23 ans le réalisateur. Ouais. Mais bon, on va revenir au Vietnam. Moi, j'y suis allé qu'en touriste, donc je ne sais pas. Mais bon, c'est
vous
pas.
Vous avez déjà avoir un dossier de 14 kilos.
Ben, oui, voilà. Oui, il suffit d'aller faire pipi, machin, on est suivi, ça c'est clair. Mais en se promenant comme ça, ça donne pas cette impression d'état policier. Les gens sont plutôt souriants, relativement jeunes. Comme les maisons sont toutes petites, ils rentrent très tard chez eux, sortant du boulot, tout ça se promène, ça a l'air assez joyeux, voilà, bon, pour vous répondre. Mais c'est pas mon plus grand souvenir. Mon plus grand souvenir, c'est le sultanat de Brunei.
Ah, ça, ce sont les ors de Brunei.
Alors, vous pouvez pas savoir, c'est quelque chose. Le palais oui. Du couronnement où il y a les régalias, ça, c'est à tomber.
Ah. Est-ce que c'est dans le sultanat de Brunei qu'il y a cette piste de ski dont nous parle?
Non, c'est Dubaï.
Non, c'est à Dubaï. Dubaï, c'est à Dubaï. À Brunei, il y a une grande route impeccable qui fait 40 km, ce qui fait que les Lamborghini de toute la famille Prince ne passe jamais la quatrième vitesse.
C'est dur, quand
même. Oui, c'est... Non, mais ils savent pas, on se les jette pas. Non, mais cela dit, j'ai entendu moi, des réflexions des Français qui s'étaient offert cette croisière, dire des sottises. Mais, simple exemple. J'avais un guide à Brunei qui était un jeune homme charmant qui avait fait ses études en Angleterre et qui, pendant ses études en Angleterre, s'est converti au catholicisme et a pris le prénom de William. J'étais en Angleterre. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais attendez, vous êtes dans un pays sultan musulman, enfin bon... Je pense que c'est un islam qui est... les dames ne sont pas emballées comme chez nous. Et il m'a simplement répondu, je suis catholique, toutes les religions dans le sultanat peuvent être pratiquées, je suis un sujet du sultan, je suis sous sa protection.
On ne peut pas se faire naturaliser...
Moi, je suis remonté sur le bateau, j'étais très content d'avoir entendu ça.
Mais on ne peut pas se
faire... Ah non, je pense que ça va être très compliqué. Vous pouvez essayer d'être belge d'abord, et puis après...
Je voudrais dire du mal d'un ministre.
Ah, c'est une bonne idée.
Hein, c'est Per Ben.
Oh.
J'ai une exécration particulière pour Per Ben.
Rien que quand on le voit déjà.
C'est pas parce que je le connais. J'ai déjeuné avec lui une fois et c'est un personnage.
Il s'est remis à la table.
Voilà. La deuxième raison, c'est que il a porté atteinte à l'estime que j'avais pour la fonction politique.
Parce que je pensais...
Oui, non, mais c'est vrai, je ne présente pas.
C'est grave.
Je pensais que quand on avait été garde des Sceaux...
On n'acceptait pas d'être ministre des Transports, déjà.
On était au sommet d'une espèce de hiérarchie morale. Et lui, Chirac, lui dit, bon, tu dégages, garde des Sceaux, je ne veux plus de toi, fous le camp, etc. T'es trop nul. Ou je veux donner la place à quelqu'un d'autre. Et Perben lui dit, mais je peux pas avoir un petit truc? Ben non, tu gardes des sauts, tu es au sommet. Tu vois pas. Alors, c'est comme dans les loges, quand on a été vénérable, on se retrouve tuileur.
Oui. Hein,
c'est comme ça que ça marche.
Voilà.
Et ben lui, il a dit, ben, je peux accepter les transports. Alors, en plus, les transports, ça lui va très bien. Mais c'est quand même... Alors déjà, ça, c'est pas reluisant. Mais en plus... Il manque, mais d'une façon grotesque et grossière, car je me suis amusé à étudier ses propos relatifs à l'augmentation du nombre des accidents tués sur la route.
Ah oui, c'est grand. Faire.
Alors ça, c'est une arnaque invraisemblable, car il nous a dit l'autre jour qu'il fallait absolument renforcer la sévérité sur les routes, parce que il y avait une augmentation. En janvier 2007,
des morts.
De 13,9% des morts par rapport à janvier 2006. Alors sur le coup, j'ai pas fait attention, je me suis dit, bon, après tout, oui, pourquoi c'est pas. Bon. Mais, puis d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est pas raisonnable, pourquoi je comparais janvier 2007 à janvier 2006 si on fait une courbe,
oui.
On compare au mois précédent, donc... Qu'est-ce qu'il y avait ? Est-ce qu'il y a eu une augmentation par rapport à janvier, par rapport à décembre 2006 ? Eh bien non. En décembre 2006, il y a eu 18% d'accidents en plus qu'en janvier 2007. Autrement dit, si Perben avait dit la vérité, il aurait été obligé de dire la baisse des accidents de la route se confirme, la baisse des tués sur les routes se confirme, en tout cas pour la période qui nous intéresse, et il y a en janvier 18% de tués de moins qu'en décembre. Mais ça pouvait pas justifier un renforcement des amendes, de la traque des flics, parce que les flics font plus que ça maintenant. Plus que ça. Ils s'occupent uniquement de vous coller des amendes si vous n'avez pas votre ceinture, si vous allez à trop vite, pas assez vite. Il y a quand même cette histoire qui s'est passée à Boulevard Kennedy, au Sable-d'Olonne, où un type a été verbalisé parce qu'il roulait à 36 km/h dans une zone limitée à 50. Alors il a dit, mais je dépasse ça. Mais vous n'allez pas assez vite, monsieur. Vous constituez un danger. Parce que bon. Alors, ils ne font plus que ça. Moi, je vois Place France-Litz, il y a en permanence une demi-douzaine de flics qui verbalisent les voitures qui vont trop vite, qui vont pas assez vite, où il n'y a pas de ceinture, où il y a les feux allumés, ou pas les feux pas allumés. On ne sait pas trop d'ailleurs.
Et quand on est là dans le parc qui entoure Saint-Vincent-de-Paul.
qui entoure Saint-Vincent-de-Paul, vous avez des jeunes gens extrêmement sympathiques qui vendent tout ce que vous pouvez.
Que je vendais du croc.
Tout ce que vendait du croc, mais en plus fort.
Des herbes qui font rire.
Voilà. Alors, donc, monsieur Perben, vous aurez zéro. Que vous êtes d'ailleurs, vous êtes un zéro et vous donc vous aurez un zéro. D'autres choses, mon cher.
Vous venez, mon cher Serge, de commencer à faire le sommaire du Libre Journal numéro 399, puisque vous avez cité discrètement et brièvement votre éditorial, qui est beaucoup plus long et tout à fait fracassant. Il ne reste plus que de la poussière de Monsieur Perben quand on arrive.
Qui doit utiliser la poudre de riz. Quand on le voit, je trouve qu'il est fait très maquiller, Monsieur Perben.
Bon, c'est comme nom de Dieu de Vabre, là.
Vous ne l'avez pas mis au catalogue des nuisibles ?
Pas encore. Il mérite pas.
Ah, il y a du louche. Ouais.
Non, mais je vais faire une suite.
Il y a un coup. De toute façon, il y a de la matière, si j'ose dire.
Voilà. Alors, on a également... C'est un numéro qui est très, finalement, économique, parce qu'on a trois pages sur l'immobilier, la flambée des prix dans la région parisienne, la façon dont ça amène à déporter la population laborieuse.
Alors, ça, il faut dire que ce papier sur l'immobilier, il est né d'un constat visuel. Il y a une agence à Paris qui a fermé brutalement en 98. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que les propriétaires sont morts. On ne sait pas. En tout cas, la vitrine est restée en l'état. Et l'autre jour, un ami, en passant devant la vitrine, s'est arrêté et il a regardé les prix des appartements en 98, c'est-à-dire en francs. Alors, il les a notés. Et puis, ça lui a paru bizarre. Et il a découvert que, notamment pour les appartements de luxe dans les quartiers comme le 16e, etc., les prix en francs, en 98, étaient les mêmes que les prix en euros aujourd'hui. Autrement dit, ils ont été multipliés par 6,5%. Ils ont été multipliés par 6,5% en 8 ans. C'est hallucinant. C'est absolument affolant.
C'est un peu surpris quand même.
Eh ben non, mais c'est vrai. J'en ai eu la preuve.
J'ai pas lu encore l'article.
Vous allez voir, c'est renversant. Alors la moyenne d'augmentation, c'est 3 fois. À peu près 3 fois. Et ça, c'est de plus en plus lourd à mesure qu'on monte dans les prix. Mais même dans des quartiers qui ne sont pas des quartiers de luxe, par exemple, le 10e arrondissement, l'autre jour, il y avait dans ma boîte aux lettres un petit papier disant studette,
oui, alors,
10 mètres carrés.
C'est ce que ça veut dire.
10 mètres carrés. Vous voyez ce que c'est, 10 mètres carrés? C'est le studio, là.
C'est studette de charme.
Hein, 70 000 euros. C'est affolant.
Coquette studette.
Coquette studette, oui, poutre apparente.
Poutre au singulier.
Oui, poutre au singulier.
Voilà. Donc, là, on est vraiment dans une situation...
C'est pour ça qu'il faut quand même avoir une certaine prudence en matière d'immobilier aujourd'hui. C'est
tout le monde dit ça tout le temps, qu'il faut arrêter d'acheter de l'immobilier parce que la bulle va exploser.
Non, pas obligatoirement arrêter, ça dépend qui et quoi et pourquoi.
On parlait de Dubaï tout à l'heure, les prix sont encore 10 fois moindres, alors qu'il y a une spéculation incroyable, c'est-à-dire des gens qui achètent, qui préemptent des appartements et qui les revendent une semaine après avec, paraît-il, 15 ou 20% de plus-value. Et les prix sont encore 10 fois.
En France, il y a 10 ans. Enfin,
voilà. Les prix parisiens sont encore 10 fois supérieurs. Alors, je renvoie aux 3 pages donc du Libre Journal numéro 399. Il y a 2 autres pages pleines, toujours dans l'infrastructure, avec un article de Michel Blanzac qu'on a repiqué donc à Balcon Info, mais je pense pas qu'il ait rompu avec Balcon Info pour autant, sur les super autoroutes qui sont en préparation aux États-Unis avec des cartes, avec des détails.
C'est une série d'articles qui commence là et qui est extrêmement intéressante parce que elle ouvre des horizons totalement, une façon de voir totalement nouvelle, une façon de considérer la géopolitique et la stratégie, et les mouvements à la fois les mouvements de population et les mouvements de fortune, les mouvements de société. C'est totalement nouveau et c'est vraiment très très intéressant. C'est fait un gros travail dans ça.
Alors, on continue dans l'économie avec un article intitulé « Ségolène, patronne de choc », surtitré « Avec son fric, jamais de gaffe ». Elle est en procès avec une employée depuis une douzaine d'années. Alors le style de c'est un article assez détaillé, appuyé sur le livre Ségolène Ombre et Lumière, là qui vient de sortir chez Michalon, qui est signé.
Il y a une chose qui est très drôle, c'est que cet employé était divorcé. Ça c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Et quand elle n'est pas payée suffisamment, elle va voir Ségolène pour lui demander un ajustement de salaire. Et Ségolène lui dit, vous avez votre pension alimentaire. Ça, c'est du patron de choc, ça.
Une autre fois, elles prennent un verre toutes les deux, et puis Ségolène s'en va en lui laissant la
notion. Ça, c'est trop socialiste.
Ouais. Enfin, il y a toute une série d'anecdotes.
Excusez-moi, vous n'avez pas fini votre phrase qui est signée.
Ce livre est signé de l'ancienne attachée parlementaire et Serge a répondu.
Et c'est l'ancienne attachée parlementaire qui s'est laissée faire payer le Perrier. C'est pas la domestique. Mais enfin, elle fait ça avec tout le monde, quoi.
Ouais. Donc, elle ne fait pas toujours des gaffes, comme on le prétend dans la presse. Alors, on continue dans l'économie avec Jean-Pierre Rondeau, qui est là.
Du cabinet Beketch et compagnie, associé.
Voilà.
Unlimited.
Voilà. Qui invite nos auditeurs, nos lecteurs, je le cite, à ne pas céder au mirage de la défiscalisation. Évidemment, il ne s'oppose pas à la défiscalisation, mais il explique les limites de la chose.
Ah, il faut qu'on fasse un aveu quand même, parce qu'on va se faire piquer,
on est
suivi partout. Donc je suis obligé de dire aux auditeurs, lecteurs, que il y a 3 semaines, un mois, Jean-Pierre Rondeau nous a invités à dîner dans un très bon restaurant.
Ah oui, on a fait le compte rendu.
Chez Marius, à 2 pas d'ici, boulevard Murat.
Donc d'une certaine manière, on est quand même un petit peu...
On a pris 2 fois du vin quand même.
On a pris 2 fois du vin. Donc,
ça prouve qu'on peut lui faire confiance.
Oui, pour choisir les restaurants, il y a aucun problème.
Voilà. Il y a un reportage. Alors, c'est tout à fait le magazine économique dans ce numéro-là, parce que tous les magazines économiques, dans leur page arrière, ils vous proposent les destinations de rêve, les vacances de rêve. Bah, c'est ce qu'on fait avec notre ami Nicolas Pérégrin, que certains appellent Bonal, qui est allé en voyage organisé à Saint-Domingue. Alors, il signe un voyage organisé pour 1000 euros, et puis évidemment, maintenant, il râle, il n'est pas content. 300 beaufs des 3 sexes, idiot. Etc. c'est vraiment très amusant.
On aurait dû en parler avant.
Sur une double encore. Alors naturellement, l'éditorial de Serge de Vecchetch, le divin Marquis, le diabolique Goffman et le camarade Brignot, le monument de la presse patriotique, qui nous explique comment, quand le petit chose voit les choses en grand, il étudie le cas de Bayrou. Si vous voulez lui faire plaisir, dites Bayrou comme en Béarn, comment c'est-il ?
Vous savez ce que ça veut dire, Bayrou ?
J'en ai pas la moindre idée.
Ben, je vais vous le dire. Quand vous aurez vous êtes seul, je vous le dirai.
Bon.
Ça veut dire l'âne rouge.
Ah.
On dit méchant comme un âne rouge, Bayrou.
C'est un cabaret, ça, de la rue de Puteaux, l'âne rouge. Oui, c'est vrai.
Alors tout ça, et le reste que j'ai pas le temps de citer parce que je veux pas abuser de l'antenne, c'est dans le numéro 399 du Libre Journal. Alors je rappelle simplement que si on veut feuilleter gratuitement notre collection et même réécouter des extraits de cette émission, on va sur le site des Amis du Libre Journal qui s'appelle francecourtoise.info. Si on veut se procurer ce numéro 399, on envoie 5 € en timbre si possible. Si on veut s'abonner pour un an, on envoie 110 € à l'ordre de SDB, 4 places France Liste, 75 010, Paris.
Puis-je faire remarquer que le prochain numéro, c'est le numéro 400.
Qui l'eût cru? 400, voilà. Ah,
formidable.
J'ai une pensée émue pour le camarade ADG qui, quand j'ai créé le Libre Journal, m'a dit « Tu feras pas 3 numéros ».
Il est toujours optimiste.
Mais qui a pris des actions.
Qui a pris des actions, oui. C'est vrai. Il a fallu que j'insiste beaucoup, d'ailleurs.
Serge, un auditeur vous pose une question. Avez-vous connaissance d'un article paru dans le Parisien du 13 février sous le titre « Guerre de succession à Radio Courtoisie »
Oui.
Article signé de Mathieu Suc. Cet article dont on devine l'inspirateur, assure que M. de Lesquin a usurpé la fonction de président de la radio et que des gorilles, cheveux rasés, sont intervenus à plusieurs reprises dans le fonctionnement de la radio.
À mon avis, les types qui ont vu des gorilles ici, ils se regardent trop souvent dans la glace, mais en tout cas,
si c'est des gorilles qui interviennent dans le fonctionnement de la radio, faut pas s'étonner qu'on puisse pas la capter dans le 16e.
Non, mais c'est très difficile de parler de ça. Enfin, c'est très difficile. La crise, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui disent qu'il y a une crise. Voilà, c'est tout. Il y a trois types qui ont décidé qu'il y avait une crise. Bon, alors, naturellement, ils remuent les bancs et l'arrière-ban. Il y en a même un qui fait une émission sur une radio internet au Canada. Tu penses comme ça peut intéresser les Canadiens de savoir ce qui se passe dans leur pays, les maudits Français. Bon, tout le monde s'en fout, le monde entier s'en contrefout. Mais il est content, il parle au Canada, ça l'occupe pendant ce temps-là, il va pas au bistrot. Donc, ils ont décidé qu'il y avait une crise et ils en parlent à tout le monde. Mais la crise, où elle est? Est-ce que vous avez remarqué?
En tout cas, pas perceptible. Hein, quand on vient là pour faire l'émission,
est-ce que ça a changé quoi que ce soit aux émissions? Est-ce que il y a des gens qui ont été censurés? Est-ce que moi j'ai été censuré? Non, pas du tout. Bon, j'ai déjà expliqué ici ce qui s'était passé. Il y a des gens qui ont utilisé ce micro pour dire du mal de cette radio. Est-ce que vous connaissez une seule radio au monde, bénévole ou payante, où on est salarié ou on est bénévole, qui accepterait qu'un intervenant vienne au micro de la radio pour dire du mal de la radio? Bah, il se ferait virer à coup de pompe dans le cul. Et là, on peut estimer qu'on a été particulièrement généreux avec ces gens-là, puisqu'on ne les a pas virés à coup de pompe dans le cul. On leur a simplement dit, c'est fini, vous avez assez joué, maintenant rentrez chez vous. Voilà. Alors naturellement, ils ne sont pas contents. Mais il ne fallait pas le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, la crise, il n'y a aucune crise. Voilà, c'est tout, il n'y a aucune crise. Ça fonctionne, ça tourne. Il n'y a pas une émission, il n'y a pas... qui a été supprimée, il n'y a pas... Il y a des gens... Alors, on nous dit... c'est une opération politique pour Villiers, Madame de Lesquin est proche de Philippe de Villiers et tout. Moi, j'en sais rien. Bon, j'ai dîné, il n'y a pas très très longtemps avec Madame de Lesquin, je n'ai pas remarqué qu'elle était spécialement ni contre ni pour Villiers, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est ça, c'est vachement tordu comme opération, parce que je vous rappelle quand même que parmi les nouveaux directeur d'émission, le seul qui soit marqué politiquement, c'est Martial Bild.
Oui, c'est
alors,
vrai.
Alors, il va falloir m'expliquer que Martial Bild, c'est un agent de Villiers à l'intérieur du Front National qui a réussi à s'infiltrer à Radio Courtoisie. Non, quand on aura assez dit de conneries, on s'arrêtera de parler de tout ça. Je veux dire, moi, s'il y a une crise à la radio, si vraiment il y avait une tentative de gauchir la radio ou d'en faire autre chose que ce qu'elle
est... Eh ben, on est au courant de rien.
D'abord, je suis au courant, et si je découvre ça, si je découvrais ça, là, naturellement, j'en tirerais les conséquences. Mais pour l'instant, on est loin du compte, hein, voilà. Non, non, tout ça, c'est à la fois vicieux, maladroit, tordu, parce que ça vise à provoquer des contentieux qui ne devraient pas exister, des antagonismes qui sont sans raison. Ça vise naturellement à frapper au portefeuille parce que les auditeurs se disent « Oh là là, mais ça va mal, est-ce qu'on va cotiser ?» et tout. Bon. Et puis ça vise aussi, il faut le dire, à entretenir un climat d'insécurité au moment où, je le rappelle, les fréquences sont en cours de rétribution. Donc évidemment, on peut se douter que ces gens-là, d'une façon absolument scandaleuse, criminelle, voilà, d'employant le mot, sont en train d'essayer d'obtenir que le CSA, qui lui-même vient de changer de direction, se dise, voilà, on va pas prendre de risque avec une radio où il y a une crise. Il n'y a pas de crise, voilà. Il faut écouter les émissions, voir s'il y a quelque chose qui apparaît. À ce moment-là, on avisera, mais pour l'instant, il se passe rien de tel.
Ah, c'est vrai, voilà. Serge, les auditeurs cotisent en masse et en ligne sur radiocourtoisie.com, au point que, dans un premier temps, le système a sauté.
Je vous rassure. Sauté sur l'argent, vous voulez dire ?
Non, non. Il a sauté parce qu'il y avait trop de connexions. Et donc trop d'argent, trop de cotisations qui tombaient en ligne. Rassurez-vous, on a rajusté le système. Et c'est pas des gorilles au crâne rasé qui sont intervenus dans son fonctionnement. C'est des gens très compétents. Radiocourtoisie.com.
Alors, quant à vos gorilles, il faut quand même en dire un mot. Quand vous avez des gens qui vous téléphonent en disant on va venir, on va occuper la radio, on va vous casser la gueule et tout. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On dit à deux ou trois copains, venez monter et c'est pas la première fois. Je signale quand même que du temps de Jean Ferré, dans toutes les réunions de Radio Courtoisie, il y avait des gens qui étaient là pour assurer le service d'ordre. Il y a même un capitaine de l'armée française qui s'en occupait. Donc ça n'a rien d'extravagant. Quand il y a une réunion, on prend des précautions pour assurer la sécurité. Moi, quand j'ai fait les dîners du Libre Journal, il y avait toujours des gens qui étaient là pour assurer la sécurité. Parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours une poignée de crétins, d'abrutis qui veulent faire de la provoque et tout. Bon, s'ils viennent faire de la provoque chez moi, ils vont être servis. C'est tout. Voilà.
C'est pas plus compliqué que ça.
Voilà, l'algèbre a été mise au point sous les formes de géométrie par Diophante. Voilà, ça c'est notre minute radio sérieuse ce soir.
Actuelle.
L'algèbre a été mise au point sous des formes de géométrie par Diophante, mathématicien grec de la fin du 4e siècle après Jésus-Christ. Les écrits de Diophante ont été traduits par un érudit chrétien de la fin du 8e siècle. Cette traduction en arabe a servi aux mathématiciens arabes des cours de Bagdad. Elle leur a permis de mettre au point le premier traité de mathématiques comportant le mot algèbre, ce qui veut dire rupture.
Tiens, pour Sarkozy, il fait de l'algèbre, alors.
Algebra.
La rupture, il fait de l'algèbre, alors, Sarkozy.
Ce qui est exactement comme Alcifra.
Ça a marqué une rupture dans ma scolarité aussi.
Oui, moi aussi.
un auditeur vous signale.
Non, c'est intéressant.
Du Japon, à 3h du matin, il vous envoie un message pour vous dire, il faut rappeler que la basilique Sainte-Sophie a été transformée en mosquée.
C'est inexact. Je l'ai visité. Elle a été déchristianisée et transformée en musée. Alors, ce qu'ils appellent un musée, ces pauvres gens, ces trois drapeaux qui pendouillent, c'est déprimant d'ailleurs, cette visite. Oui. Mais notre ami de Tokyo, je le salue respectueusement et amicalement, mais là, il nous désinformait.
C'est du sushi, tout ça, quand même.
Il y a du sushi à se faire.
Oui. Elle avait été transformée en musée.
Dites vite vos messages, parce qu'il nous reste
trois. Pas plus Mustapha Kemal.
Serge, pouvez-vous rappeler le numéro de l'arrêt de la cour d'appel dont vous avez parlé tout à l'heure, concernant le Samir qui a tiré sur un automobiliste avec une arme à feu?
Non, numéro. Ah oui, non, alors attendez.
Le fameux.
Oh là là,
les armes blanches.
C'est quelqu'un qui va s'en servir.
Il nous reste 2 minutes.
Hier soir sur Riposte, enfin c'était pas hier soir, mais ça fait rien, sur Riposte il y a 3 semaines, j'ai été surprise d'entendre Besancenot chanter l'indicatif de l'émission de Serge de Becquetch. Serge Becquetch, c'est-il au courant?
Bon, c'est encore de la désinformation, parce que c'est une chanson rouge qui chantait, bien sûr. C'est à l'appel du grand Lénine, se levaient les partisans, etc., etc.
C'est la même musique.
C'est pas tout à fait la même version.
C'est un peu différente. Peut-on avoir les coordonnées de M. Rondeau?
Oui,
c'est pas bon.
Oui, oui, non, mais
donnez-les, bon, bien sûr.
Il y a qu'à m'appeler au 01 44 51 62 20.
On va pas lancer.
01 44 51 62 20.
jprondeau@megarafinance.fr.
Quand nous referez-vous, cher Serge et autres, votre rap? Comme il y a un an, c'était une émission extraordinaire. Faites-nous rire, à nous.
Je ne retrouve pas le numéro, le papier de.
C'est pas grave, vous n'avez qu'à écrire et vous répondra.
C'est étonnant, quand
c'est bête. C'est pas grave, il nous reste 30 secondes.
Non, mais voilà. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ça. Ça doit être ça, oui, voilà. Je le vois, je l'avais plié. Alors, c'est l'affaire 05 24 27 10 10 au tribunal de grande instance de Nanterre, audience du 26 septembre 2006, jugement du 14 novembre 2006. 05 24 27 10 10.
Comment répéter ?
Voilà, c'est tout. Alors, allez-y vite. Oui. Il vous reste une minute pour faire votre annonce.
Enquête sur les croisades, on a mal entendu tout à l'heure. C'est de M. Daniel Raffard de Brienne. Enquête sur petit point, et là, le titre c'est Les Croisades. Ça vaut 10 euros et c'est édité par Via Romana.
Et il viendra peut-être signer samedi.
Il viendra samedi normalement.
Voilà. Et alors, samedi prochain, 17 février, de 15h à 18h30, Gérard Patrimonio dédicacera Solidarité chrétienne internationale de la libération des esclaves en terre d'islam.
Ils font du très bon travail. C'est un très bon livre, c'est un très très bon livre.
Rachète.
Laurent Glosi dédicacera lui Le mystère de la race des Égéens et Daniel Raffard de Brienne, donc il viendra dédicacer Enquête sur les croisades à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. La mère agitée, quel temps, organise pour la fête du Mardi Gras, 20 février, dîner, vin et beignet compris, 30 euros, au 21 rue Campagne Première, Paris 14e, téléphone 01 43 35 56 64.
Bon appétit et bonne semaine et que Dieu nous garde.
Bonsoir, chers auditeurs, et ravi de vous retrouver pour ces Chroniques de la Vieille Europe, émission émergée en deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquetch sur Radio Courtoisie, avec ce soir le programme traditionnel de notre rendez-vous en 3 demi-heures qui seront organisées. La première pour ce traditionnel tour d'étape, tour du monde, tour d'Europe, des différentes brèves géopolitiques que nous avons relevées depuis notre dernier rendez-vous de la mi-janvier. Une deuxième demi-heure qui sera consacrée à notre invité qui nous rejoindra dans le studio d'ici quelques instants et que nous vous présenterons tout à l'heure. Et puis la troisième demi-heure, très traditionnellement encore, réservée à l'actualité culturelle de cette grande Europe, rubrique animée par Patrick PL. Alors, Grégoire Gambier qui est avec moi aujourd'hui autour de la table puisque nous avons dû malheureusement, nous devrons excuser à la fois Xavier Van Lierde et Olivier Lebrun qui n'ont pu se dégager de leurs obligations pour être avec nous et nous le regrettons bien. Donc Premier élément pour reprendre un des sujets qu'on avait abondamment traité le mois dernier, qui était le plan de paix qui est concocté et qui va être soumis demain au Conseil de sécurité de l'ONU s'agissant du Kosovo. Nous avions émis un certain nombre de craintes en pensant que ce plan de paix, sous quelques contorsions lexicales et linguistiques que ce soit, allait plus ou moins amener vers une indépendance du Kosovo. Aujourd'hui, ce plan a été présenté par l'émissaire finlandais. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? On s'était pas énormément trompé.
Non, en effet. Ceci dit, c'était pas vraiment un scoop et on peut pas dire qu'on ait fait de la prospective hardie. Le plan du finlandais, effectivement, Martti Ahtisaari, débouche bien. Enfin, en tout cas, laisse présager une possibilité d'une indépendance relativement rapide du Kosovo à l'égard de la Serbie. Donc bien évidemment, cela rend les choses d'autant plus compliquées à gérer sur le terrain et sur le niveau et au niveau diplomatique. Donc après les urnes dont nous avions parlé effectivement lors de notre dernière émission, qui avait vu les nationalistes serbes remporter une quasi-victoire électorale, donc lors du scrutin qui avait été organisé il y a 15 jours maintenant, après les urnes, donc la rue, et donc si elle appartient à celui qui descend, tout simplement, deux chiffres pour nos auditeurs et pour vous, Philippe Christel. Deux chiffres, parce que deux manifestations ont été organisées le week-end dernier à la suite de l'annonce, enfin de l'officialisation du plan finlandais du médiateur de l'ONU. La première, donc, qui a eu lieu le vendredi 9 février, a rassemblé 7000 Serbes, ce qui est un exploit au regard du nombre limité désormais de Serbes qu'il reste dans la province serbe du Kosovo. Et le samedi, donc le lendemain, le samedi 10 février, uniquement 2000 partisans de l'autodétermination rapide du Kosovo, donc 2000 partisans kosovars qui ont manifesté. Sachant que dans le premier cas, 7000 Serbes ont manifesté avec calme et retenu, malgré le contenu du plan européen, enfin du plan de l'ONU en question, alors que les 2000 kosovars, enfin la petite manifestation de ces 2000 kosovars, c'est quand même conclu avec 2 morts, 70 blessés et 14 arrestations. Donc c'est presque anecdotique, si ce n'est que malgré tout, on sent bien que la pression dans les Balkans et en général et en Serbie en particulier pousse à refuser quelque partition que ce soit et remise en cause des frontières, puisque si on commence à remettre en cause ce type de frontières, on sait bien que les différents traités qui ont conclu les premiers et deuxièmes conflits mondiaux peuvent être aussi sujets à caution, que ce soit en Roumanie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie ou que sais-je. La seule chose que l'on peut regretter...
Ou en Slovaquie.
Bien sûr, pardon. En Tchéquie ou en Slovaquie. La seule chose que l'on peut regretter de cet épisode, donc qui nous surprend peu, c'est l'unanimité des ministres européens des Affaires étrangères auquel a été présenté donc ce plan de l'ONU le 12 février dernier à Bruxelles, unanimité pour l'approuver. Au prétexte que bien évidemment, ce plan de l'ONU permet au Kosovo de s'engager, je cite, vers une société démocratique et multiethnique fondée sur l'état de droit. Alors c'est beau, si ce n'est que sur
c'est
le terrain...
C'est beau comme du douste blasi.
Voilà, on dirait du douste blasi, donc c'est assez peu excitant malgré tout, si ce n'est que ça excite les foules locales, et l'on espère que ce plan sera vivement enterré, si ce n'est dans les couloirs des chancelleries, au moins au Conseil de sécurité de l'ONU, si la Russie, comme elle prétend devoir le faire, oppose son veto.
Alors, trois commentaires là-dessus, Grégoire Gambier, pour prolonger ce que vous dites, c'est que la première, on note effectivement un lâche soulagement des chancelleries occidentales qui rappelle étrangement le consensus mou qui avait suivi l'annonce par Kofi Annan du plan pour Chypre. Oui. Où on voit bien qu'en fait, il importe avant toute chose à l'ensemble des démocraties occidentales, ou en tout cas des pays de l'Union européenne, que une zone de tension ou une zone de conflit disparaisse et que, ma foi, que le meilleur gagne et que, surtout, on arrête de nous embêter les consciences et les voies de transit des marchandises avec des problèmes aussi délicieusement réactionnaires que des problèmes d'identité et de frontières. Et donc là-dessus, les gouvernements concernant n'ont rien appris, rien retenu. La deuxième, s'agissant de la manifestation qui s'est tenue, la manifestation albanaise au Kosovo, c'est qu'une des problématiques actuelles qui inquiète tout le monde, y compris et surtout en cas de rejet définitif du plan prévoyant l'indépendance, c'est que l'ensemble des soldats, miliciens ou tout simplement des voyous de service qui se sont engagés à l'époque dans l'Outcheka, habillant ainsi d'une noble cause une belle occasion de faire la guerre, de piller et de pas aller travailler, ben tous ces gens-là aujourd'hui sont à recycler. Et à supposer que même dans le cadre de l'autodétermination il y a des forces armées et une milice qui représente la police, on sait très bien que elle ne pourra pas recycler ces gens-là, et donc il y aura de la perte au feu, de la même manière d'ailleurs qu'en 1944-45 il a bien fallu recycler les FFI, FTP et autres Fifi de la 25e heure. Alors l'avantage c'est qu'on avait la campagne d'Allemagne, qu'on a calmé quelques-uns, et puis l'Indochine derrière, ça les a occupés un peu. Et puis en revanche là on sait pas comment on va recycler tous ces braves gens qui sont quelque part entre l'héroïque combattant de l'indépendance et le parfait voyou. Troisième élément, et vous le citiez, c'est que l'issue au Conseil de sécurité de l'ONU passera par un vote et donc une menace de veto de la part de la Russie. Et donc voilà un sujet de plus qui en ce moment est susceptible d'opposer Moscou et Washington, ou en l'espèce Moscou et Washington plus Londres.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Moscou s'est largement, enfin Vladimir Poutine s'est largement illustré ces derniers temps. D'abord par une prise de position, un discours assez clair prononcé à Munich il y a une dizaine de jours maintenant, si je ne m'abuse. Et dans la foulée, une tournée chez les alliés clients privilégiés des Américains dans le Golfe Persique, au Moyen-Orient, qui s'avère particulièrement constructive donc pour l'avenir la diplomatie russe. Donc une petite analyse, Phil Christel.
Oui, alors ça n'aura pas échappé bien sûr à nos auditeurs et à ceux qui comme nous sont passionnés par ces questions stratégiques que la scène politique internationale vient d'être ébranlée par le discours de Vladimir Poutine à la traditionnelle conférence sur la sécurité organisée par l'OTAN, conférence annuelle à laquelle pour la première fois un président russe a assisté. Et non seulement il a assisté, et en plus il a délivré un message qu'il avait prévenu à l'avance d'ailleurs devoir être sans aucune politesse excessive. À la tribune, Vladimir Poutine a été très clair et a clairement dénoncé les agissements de Washington qui impose, je le cite, son système politique à d'autres. Le président russe, on le sait, est un partisan du monde multipolaire. La Russie a clairement annoncé qu'elle avait totalement abdiqué toute intention d'être superpuissance et ne trouver son réconfort que dans un monde multipolaire. En l'espèce, donc, c'est bien ce monde unipolaire qui a été dénoncé par le président russe, qui a clamé que depuis que les Américains sont cette hyperpuissance, eh bien, ma foi, personne ne se sent en sécurité dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde qui n'a rien à voir avec la démocratie et qui est devenu le catalyseur d'une nouvelle course aux armes. Effectivement, ça n'aura échappé à personne que l'herbe repousse difficilement derrière l'âne ou l'éléphant américain lorsqu'il s'ébroue dans les plaines du vaste monde. Et puis, au-delà des échecs répétés de la diplomatie et des bruits de bottes américains, on pourra constater également quelques agressions assez significatives et qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Quand on n'est pas directement dans les bureaux de Washington. On a parlé bien évidemment des agressions directes sur la zone de l'Asie centrale provoquant de facto la colère et la crispation de Moscou. La dernière en date, c'est l'installation d'un bouclier antimissile américain pour ne protéger que les États-Unis sur les territoires de la Pologne et de la Tchéquie, ce qui sont, s'agissant de Moscou, totalement superfétatoires, puisqu'on sait très bien que Moscou dispose d'armes qui peuvent annihiler les effets protecteur de ce dispositif. Donc, il y a une volonté à la limite de la violation des accords sur le désarmement qui est systématiquement celle des États-Unis, et Vladimir Poutine n'a pas manqué de la relever. Donc évidemment émotion à Munich, même si chacun, que ce soit le tout nouveau secrétaire américain à la défense, Robert Gates, qui était présent dans la salle, que ce soit même le faucon notoire qui est le sénateur américain John McCain, qui serait compétiteur pour la primaire américaine à la prochaine élection présidentielle, ou également le secrétaire général de l'OTAN, le néerlandais Jaap de Hoop Scheffer, tout le monde a dit que bien évidemment la Russie et Poutine ayant l'habitude du franc-parler, c'était bien qu'on puisse avoir ce type de débat. Mais enfin, quand même, certains se sont demandé si la Seconde Guerre froide ne venait pas d'être déclarée de nouveau à cet instant.
Oui, je mettrai un petit bémol sur les réactions américaines, là, en l'espèce à Munich, puisque Robert Gates, en effet, rappelons qu'il est l'ancien directeur de la CIA, a spontanément trouvé les propos du président russe très francs et intéressants, je cite. Très francs et intéressants, c'était le moins qu'on puisse dire, ils étaient francs. Alors que le sénateur américain Joseph Lieberman, que vous n'avez pas cité, qui doit sans doute être né conservateur, lui a parlé de provocation et du lancement d'une nouvelle guerre froide à cause de la Russie. Rappelons malgré tout.
On rappellera juste pour Joseph Lieberman, c'est que c'est ce sénateur démocrate qui a rejoint George Bush,
oui.
Puisque, semble-t-il, la campagne de George Bush et ce pourquoi se battait George Bush, selon lui, valait bien qu'il abandonnât sa casquette démocrate pour rejoindre celle des républicains au nom d'une cause supérieure, semble-t-il.
Rappelons aussi que la pseudo-provocation russe à Munich n'est qu'un lointain écho, sans doute aussi, de celle de George Bush lui-même, qui en février 2005 à Bratislava avait donné, voulait donner une leçon de démocratie à son homologue russe en louant la marche vers la liberté des pays de l'ex-URSS à Bratislava. En plus, enfin, c'était là pour le coup une vraie provocation au sens diplomatique du terme.
Alors, ce qui est intéressant, effectivement. C'est que finalement le show ou le spectacle donné à Munich s'est clos par de multiples déclarations sur le multilatéralisme. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple la France, par la voix de Michel Alliot-Marty, s'était décommandée. Et que dans ce rendez-vous important dans le cadre de l'OTAN, mais dans lequel la France a toujours fait entendre sa voix, justement parce qu'il s'agissait d'une petite musique différente, eh bien, ma foi, Michel Alliot-Marty n'était pas là, alors qu'on sait qu'elle avait, dans d'autres circonstances, assumé plutôt courageusement, dans des cénacles otaniens, une parole de la France assez iconoclaste sur ce type de sujet. Alors, est-ce que il faut y voir les conséquences du ralliement électoraliste de Michel Alliot-Marty à Nicolas Sarkozy? C'est un parallèle que nous ne ferons bien évidemment pas parce que nous n'avons pas mauvais esprit. Tout au plus pourra-t-on constater s'agissant du candidat Sarkozy que lorsqu'il a réuni ses comités de soutien à la mutualité dimanche dernier pour faire écho au spectacle donné par Ségolène Royal à Villepinte, il était donc tout ému et tout émoustillé d'annoncer qu'un certain nombre de soutiens d'ampleur l'avaient rejoint, montrant en cela la grande ouverture de son programme. Et donc, il a cité les éternels et habituels grands penseurs, à commencer par André Glucksmann, et il a dit en tribune, « Eh bien, ma foi, quand André Glucksmann vient me voir et vient me parler du drame tchétchène, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore un type qui s'occupe du drame tchétchène, qui s'appelle André Glucksmann, eh bien, Sarkozy dit, j'ai envie de prendre sa cause à mon compte, et donc, nous voilà ravis, et donc, les Tchétchènes ont un nouveau défenseur en la personne de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si c'est très astucieux et si ça va ramener des voix. En tout cas, c'est une source supplémentaire de nous préoccuper quant au programme politique et diplomatique de Nicolas Sarkozy, dont nous avons déjà dit, s'agissant de son programme politique et diplomatique, le plus grand mal.
Notamment sur la Tchétchénie, puisque c'était la question a été posée par Glucksmann lui-même dans une interview quasi fondatrice qui avait été donnée en septembre, si je ne m'abuse, par Sarkozy à la revue Le Meilleur des Mondes, dont on avait traité sur cette antenne.
Absolument.
Simplement pour revenir sur Munich, pour la France, franchement, mieux valait encore l'absence de MAM que la présence couinante et sans doute grotesque de Douste Blasi, qui n'aurait pas pu s'empêcher de dénoncer lui aussi, avec des trémolos dans la voix, le risque de du retour des tensions et voire même de la guerre. Et tout ça, c'est dur pour l'humanité n'est pas prête. prête, quoi. Donc oui, finalement, mieux valait que Mme n'y soit pas.
Peut-être y a-t-il une vieille résilience qui fait que les Français ne sont plus très rassurés de voir des accords signés à Munich. Autre sujet, puisque vous y faisiez allusion aussi, et peut-être plus intéressant, même si moins européen, c'est la tournée diplomatique que Poutine a entamée juste après Munich au Proche-Orient. Et donc ça, c'est un sujet qui nous paraît assez intéressant, parce que, alors d'abord, il démontre que, contrairement à la légende, Vladimir Poutine n'est pas un joueur d'échecs, mais c'est un joueur de Go. Vous savez que la différence du jeu d'échecs et du jeu de Go, c'est que le joueur d'échecs, on joue contre quelqu'un, le jeu de Go, on joue à côté de lui et on cherche à obtenir des territoires qu'il n'a pas encore investis.
Parce que Poutine est aussi judoka, ceci expliquant peut-être cela.
En l'espèce, plutôt que se crisper sur les agressions américaines en Asie centrale, Vladimir Poutine décide d'investir un autre terrain de jeu où les Américains sont en délicatesse, ce terrain de jeu, c'est le Proche-Orient. Donc Vladimir Poutine a entamé une visite en Arabie Saoudite, puis au Qatar, puis en Jordanie. Avec d'ailleurs, comme introduction à sa visite, une interview accordée à la trop fameuse maintenant chaîne Al Jazeera, dans lequel le président russe a estimé que la situation en Irak était pire aujourd'hui que sous Saddam Hussein, et estimant malgré tout que les 148 victimes chiites qui ont valu le gibet au dictateur irakien étaient à comparer avec les quelques 3000 morts américains et les centaines de milliers de morts civils irakiens depuis le début de ce qu'on appelle les opérations militaires. C'est un équilibre des comptes qui n'appartient qu'à lui, mais qui là aussi a le mérite de mettre en perspective des chiffres intéressants. Plus sérieusement, le Moyen-Orient, on le sait, c'est bien le premier terrain sur lequel la diplomatie russe a marqué son retour depuis son devant de la scène depuis 2003, ou en tout cas 2002. On se rappelle que le grand retour diplomatique de la Russie, c'est le lendemain du 11 septembre avec le soutien immédiat de Moscou à la lutte contre le terrorisme et l'ouverture d'un certain nombre de facilités militaires aériennes aux États-Unis. Et depuis, la Russie est totalement rentrée dans le jeu. On s'en souvient déjà, il y a un an, une délégation du Hamas, aussitôt que ce parti ait été démocratiquement élu, eu la majorité à l'Assemblée palestinienne, le Hamas a été reçu à Moscou, alors que ce mouvement était considéré, il l'est toujours, comme terroriste par la Maison Blanche et par l'Union Européenne. Au-delà de ce terrain-là, on sait que Poutine entretient des liens privilégiés avec Mahmoud Abbas, on rappellera que le président palestinien est docteur en histoire de l'université de Moscou, à l'époque où l'URSS était un lieu d'études et de villégiature, mais surtout d'études pour les élites des pays arabes. Et donc la tournée de Vladimir Poutine s'appuie sur une connaissance fine et un langage bien choisi vers ses interlocuteurs. Ce qui préoccupe évidemment les Occidentaux, c'est que, au-delà des convergences diplomatiques, ce sont les convergences des pays qui, aujourd'hui, détiennent le plus grand nombre de réserves énergétiques, ce fameux pétrole et ce fameux gaz. Vous le savez, la Russie est en passe de devenir le premier producteur mondial d'or noir à parité avec l'Arabie Saoudite. La Russie est le premier producteur mondial de gaz, alors que le Qatar, qui était la deuxième destination de Vladimir Poutine, dispose des troisièmes réserves mondiales. Et donc on sait que Vladimir Poutine évoque régulièrement ce concept d'OPEP du gaz. On sait que ça a fait l'objet des tractations qu'il a eues en Algérie, là où il y a un gros mois de ça, des accords importants ont été signés. Et donc le fait que Riyad ait accueilli Vladimir Poutine en parlant d'un homme de dialogue, d'honneur et de paix, font effectivement relancer toutes les spéculation sur la capacité ou pas d'une OPEP du gaz de se créer parallèlement à cette OPEP qui aujourd'hui ne couvre que le pétrole. Dernier sujet qui là aussi témoigne de l'intérêt grandissant et réciproque du Proche-Orient et de la Russie, c'est l'augmentation des échanges commerciaux et surtout sur un sujet qui n'est pas des moindres, qui est celui de l'achat d'armes. pour la première fois, eh bien, la Russie va vendre quelques 150 chars T-90 à l'Arabie Saoudite, plus un certain nombre de contrats de coopération dans un certain nombre de domaines, y compris balistiques. Et il s'agit là d'une brèche importante dans l'hégémonisme américain total dans cette région, puisque, on le sait, les pays du Golfe, à quelques rares exceptions, notamment sur du matériel français, les pays du Golfe sont d'excellents clients de matériel militaire américain. Il y a donc une percée diplomatique avec des arrière-pensées énergétiques et des premières tractations qui aboutissent sur le plan économique et militaire. Voilà donc effectivement une nouvelle donne qui, au-delà du discours de Munich, montre bien que la Russie ne souhaite pas cacher ni restreindre ses plus légitimes ambitions face aux géants américains.
Oui, nous restons dans le domaine de l'économie, mais quittons un petit peu les rivages doucereux du Moyen-Orient, tout simplement parce que Eurostat, l'institut donc de statistique de l'Union européenne, a sorti hier ou avant-hier les premiers chiffres, en tout cas estimatifs, de la croissance économique en Europe. Alors, si Lénine avait pu dire que les faits sont têtus, il aurait pu ajouter que les chiffres, eux, sont cruels. En effet, les chiffres de croissance de la zone euro pour 2006 marquent une progression de 2,7% du PIB européen, ce qui est deux fois plus qu'en 2005, et c'est le meilleur résultat depuis la croissance frénétique liée à la bulle Internet. Vous vous en souvenez, Philippe Christel, certainement, même si vous étiez encore en école de commerce, c'était à la fin des années 90, début des années 2000.
Je travaillais à cette époque-là, je vous signale.
Déjà, pour payer vos études, il faut bien que l'école de commerce...
Non, pour payer le fisc.
Déjà. Bon, donc en soi, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, et bien évidemment, on s'en félicite autour de cette table, mais ça l'appelle quand même plusieurs commentaires. Le premier, c'est que cette croissance donc de 2,7% en 2006 est quand même nettement inférieure à celle des États-Unis, qui enregistrent pour leur part une progression de 3,4% de leur PIB. Et on ne parle pas ni de la Chine, ni de l'Inde, ni même de la Russie, pour ne pas enfoncer le clou. La zone euro, l'Europe en général, reste malgré tout très en deçà des grands flux de croissance économique mondiaux. Ceci dit, le deuxième commentaire, c'est que l'Allemagne retrouve son leadership au sein de la zone euro. Ça n'a pas dû vous échapper non plus. Avec une croissance de 2,7%, qui est pile poil celle de la zone euro, elle redevient la locomotive économique de l'Union, qu'elle a naturellement vocation à être, bien sûr. Ajoutons qu'elle fait jeu égal avec la Grande-Bretagne, qui elle n'est pas dans la zone, dans l'Euroland. Et ces bons résultats sont à mettre essentiellement sur le compte de ses exportations, d'excellente tenue malgré l'euro fort, donc à la fois le fait qu'elle ait une croissance comparable à celle du Royaume-Uni et que cette croissance soit tirée par des exportations, cela tente à amoindrir malgré tout les critiques récurrentes, surtout en campagne électorale, contre l'euro fort, l'euro qui asphyxierait notre économie. Visiblement, ce n'est pas la question. Une économie forte peut s'appuyer sur une monnaie forte.
Oui, on notera effectivement, comme vous l'avez dit, que c'est la série de tous les records, puisque l'Allemagne culmine avec un nouveau record d'exportation, tandis que la France culmine avec un nouveau record de déficit commercial, avec une monnaie qui est commune et qui est celle de l'euro.
C'est le troisième point de mon commentaire. C'est justement l'effondrement de la balance commerciale qui fait de la France aujourd'hui le boulet de l'Europe. En effet, les chiffres sont éloquents. Nous stagnons à 2% de croissance en 2006 et donc ne profitons absolument pas de cette reprise à la fois internationale et européenne. Et ce qui est plus grave, c'est que c'est notre production industrielle qui est la base de toute économie, y compris à l'âge de l'immatériel, comme on essaye de nous le seriner. C'est cette donc base industrielle qui a régressé l'année dernière avec moins 0,1% quand même pour le seul quatrième trimestre. Et ça, c'est grave, puisque derrière l'industrie, c'est toutes les capacités de R&D, d'innovation qui peuvent être remises en cause si nous perdons totalement notre base industrielle. Donc c'est particulièrement grave, puisque cette chétive croissance à 2% est uniquement due à la bonne tenue de la consommation intérieure, qui augmente plus vite malgré tout que la masse salariale, ce qui veut dire très clairement qu'elle repose sur deux effets qui peuvent être accessoirement cumulatifs. Le premier, c'est l'endettement des ménages, lié essentiellement au prix de l'immobilier, donc je n'insiste pas là-dessus, et surtout l'effondrement de l'épargne. Or, l'effondrement de l'épargne, ça veut dire aussi la baisse des investissements potentiellement productifs, y compris vers l'industrie. Donc c'est un peu un cercle vicieux qui est en train de, dans lequel la France est en train, depuis un bout de temps maintenant, en train de s'engager. Et ce qui est encore plus grave, c'est que le ton, ou ne parlons même pas du contenu des débats électoraux en cette période présidentielle, ne laisse absolument pas présager qu'une politique alternative et un petit peu virile puisse faire en sorte que la France renoue, ne serait-ce qu'avec la croissance de la zone européenne, et accessoirement avec une vraie croissance.
Oui, ce que vous dites est frappant, puisque tant le déstockage d'épargne des Français vers la consommation, l'endettement de l'État vers des flux et qui sont des prestations sociales témoignent donc d'un recours à l'endettement et d'un amoindrissement de la capacité d'épargne pour non pas des dépenses d'investissement, mais des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un investissement qui est perdu et donc ça correspond à un appauvrissement réel, puisque la circulation de monnaie ne correspond pas à un accroissement de la richesse nationale.
Voilà, donc là c'est uniquement les chiffres d'Eurostat et donc l'analyse que l'on peut en faire. L'OCDE, par la même occasion, a sorti aussi ses propres statistiques, mais au regard de la nature même de cet organisme, on ne va pas s'étendre, mais il corrobore malgré tout des problèmes structurels de la plupart des économies européennes en général et de la France en particulier.
Grégoire Gambier, merci pour ce volet économique, et puisque notre invité nous a rejoint, nous allons donc ouvrir notre deuxième demi-heure. À tout de suite.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous retrouvez les chroniques de la vieille Europe donc sur le libre journal de Serge Bekech pour l'interview de notre invité du mois. Et nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Pichon.
Bonsoir.
Bonsoir Frédéric Pichon, vous êtes ici donc ce soir en qualité de président de l'association Europea Gentes.
Oui, tout à fait.
Donc félicitations déjà pour votre titre de président. C'est quand même... c'est intéressant à noter, et surtout félicitations pour votre association Europea Gentes, qui a un très beau site internet, en tout cas très bien fait, très fonctionnel et très riche en contenu, et dont vous allez pouvoir nous parler, non moins peut-être du site dont nous donnerons les références tout à l'heure, que de l'association en elle-même. Alors pourquoi l'association, elle se présente comme militant pour la reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe, très brièvement. Donc quelle est l'origine de cette association?
Alors l'association est née officiellement il y a 2 ans et demi. Notre première action publique d'éclat a été l'organisation d'un colloque contre l'entrée de la Turquie, justement en référence à la notion d'identité européenne que nous défendons, identité naturellement dans laquelle nous intégrons la notion des racines chrétiennes.
D'accord. Donc c'était peut-être concomitant aussi au débat, au débat morné qui avait eu lieu sur la constitution, le projet de constitution européenne, et l'inscription donc de la référence explicite soutenue d'ailleurs par Giscard en son temps aux racines chrétiennes de l'Europe, donc dans le texte du traité constitutionnel.
Oui, c'était tout soutenu non seulement par Giscard mais par une majorité de pays européens, à l'exception de la France et de la Belgique à l'époque, au nom d'une ce que j'appellerais une espèce d'amnésie et d'ethnomasochisme. Si cher à nos dirigeants qui refusent de reconnaître notre héritage et notre identité, la considérant comme une pierre d'achoppement, comme un obstacle au dialogue avec les autres cultures. Or nous considérons que l'Europe précisément doit avant tout se déterminer par rapport à son identité. Nous nous définissons comme alter-européens, c'est d'ailleurs dans nos statuts, c'est Europa et Gentes, les alter-européens, c'est un petit pied de nez aux alter-mondialistes, c'est-à-dire que nous ne nous opposons pas à la construction européenne, au contraire, mais nous considérons que l'Europe aujourd'hui prend une mauvaise orientation et nous proposons donc un modèle alternatif qui est plus indispensable, qui est indispensable plus que jamais, en ce sens que l'Europe telle qu'elle se construit est une imposture. Et j'en veux pour preuve le dernier ouvrage qui a le mérite d'être clair, corrigé par Michel Rocard et le dénommé Bolkestein, bien connu, dans lequel Michel Rocard suggère d'élargir l'Europe à la Turquie, au Maghreb, et carrément d'abandonner l'idée d'Europe. Autrement dit, finalement, cet espace économique marchand dont on a fait l'apologie, qu'on a voulu faire correspondre à l'Europe, on voit bien qu'il recouvre des réalités qui n'ont plus rien à voir avec son identité. Donc nous opposons deux visions de l'Europe qui sont antagonistes. La vision que nous faisons nôtre, c'est une Europe qui est fondée sur des critères d'identité et animée par une volonté de puissance, c'est la notion d'Europe puissance, à laquelle nous opposons l'Europe actuelle, qui est une Europe à la fois un espace économique marchand, qui a vocation à s'ouvrir à n'importe quel pays, et qui renonce à toute volonté de d'indépendance politique, et qui, de ce point de vue-là, se rallie à l'option britannique, c'est-à-dire un atlantisme, et qui refuse de jouer le rôle d'une puissance. Donc il y a deux visions de l'Europe, l'Europe identité et puissance contre l'Europe marchande et atlantiste. Et
quel type de construction, sauf si vraiment vous avez un contre-traité prêt à développer, auquel cas je serais obligé de vous couper parce que nous n'aurons pas le temps,
oui.
Mais en quelques mots, quelle est la vision de l'organisation de cette Europe alternative que vous envisagez?
Je crois qu'on peut quand même, je vais évidemment répondre à cette question institutionnelle dont on ne peut pas faire l'économie.
Ou politique, tout simplement.
Mais il faut quand même définir ce qu'est l'Europe. Donc il faut préalablement, dans un préambule, une constitution, définir quelles sont les frontières et son identité. Parce qu'on ne peut pas construire une maison si elle ne se construit pas sur des fondements stables et non pas sur du sable mouvant comme c'est le cas actuellement. Donc il faut une identité commune. Ça, c'est une nécessité pour créer une entité politique homogène et cohérente. Si on fait entrer la Turquie dans l'Europe, il est bien clair que l'unité politique ne pourra pas se faire, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'identité commune. Donc, premièrement, mettre l'accent sur l'identité. Ensuite, la volonté politique, c'est permettre à chacune des nations et des peuples qui composent l'Europe de jouer un rôle dans le monde, un rôle non pas hégémonique, mais un rôle de rayonnement, comme ça a été le cas par le passé, et une Europe unie sur le plan politique, diplomatique et militaire, dans lesquelles les nations qui composent l'Europe et qui acceptent cette perspective-là, accepte de déléguer un certain nombre de pouvoirs dans un souci de défendre une entité supérieure qui est l'Europe, d'accord, qui est la civilisation européenne.
Y compris des pouvoirs dits de souveraineté.
Y compris des pouvoirs de souveraineté. C'est, nous défendons l'idée, non pas de souveraineté absolue, mais l'idée de souveraineté partagée, qui est une idée d'ailleurs très ancienne, qui remonte au Moyen-Âge, où la souveraineté absolue, c'est une notion qui est apparue assez tardivement avec Jean Bodin, qui s'est développée avec le jacobinisme, où on a centralisé, on était incapable de concevoir une identité politique en dehors de l'État.
Sur ces aspects institutionnels, donc en fait, vous êtes assez proche d'une analyse que peut développer Chantal Delsol, peut-être aussi sur la complémentarité des pouvoirs, les systèmes de délégation.
Tout à fait. Alors, pour résumer, nous sommes en train de terminer un ouvrage justement pour...
C'est le moment de l'annoncer, Frédéric Pichon.
Qui s'appelle le Manifeste des Alters Européens, qui est un résumé de ce programme où il y a une première partie, justement, où on réfléchit à la question de l'identité européenne. Qu'est-ce que l'Europe? Donc, il y a 80 pages. Et la deuxième partie sur les quatre défis que nous avons recensés. Donc le défi géopolitique, le défi identitaire et démographique, le défi économique et le défi institutionnel au regard des questions d'unité.
Nous reviendrons sur l'aspect démographique qui est évidemment au cœur de l'existence même de l'Europe aujourd'hui pour les 20 ans à venir. Philippe Christel, peut-être une interrogation. Je sens que vous brûlez de poser la question des frontières de cette Europe-là, et notamment au-delà de l'Oural.
Oui, encore que je pense que la question des frontières, c'est pas par la question des frontières que la réponse va arriver, mais bien sur celle du défi géopolitique. Et donc, typiquement, dans le défi géopolitique que vous imaginez, vous avez dénoncé une certaine Europe atlantiste. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour imaginer des coopérations ou en tout cas une nouvelle relation géopolitique de puissance pour l'Europe?
Nous sommes favorables à un axe Paris-Berlin-Moscou, sans forcément intégrer la Russie dans une future Union européenne. Hein. Ça pourrait être
d'autant plus qu'elle ne le souhaite pas, d'ailleurs.
D'autant plus qu'elle ne le souhaite pas, mais dans le cadre d'un, d'un partenariat politique et diplomatique que la Russie accepterait. Enfin, quand on lit l'ouvrage de Grossouvre, notamment Paris-Berlin-Moscou, on voit... On ressent, vous en avez parlé tout à l'heure, que Poutine serait tout à fait disposé, s'il émerge en Europe des nations qui aient une velléité d'indépendance, de nouer des contacts avec elles, de façon à faire émerger ce pôle, ce nouveau pôle alternatif.
Nous avions invité d'ailleurs le jeune Grossouvre en son temps à cette émission.
Si on prend un cas, que je me fais un peu l'avocat du diable, mais aussi si l'évolution institutionnelle de ce pays, et je vais parler de l'Ukraine, se confirme, et donc son arrachement à la sphère directement russe en tant que pays indépendant et qui arrive à préserver sa souveraineté, et que demain, alors que proposer demain à l'Ukraine, accepter qu'il rejoigne l'Europe que vous auriez construite ou considérer, ma foi, que non, l'Ukraine n'a pas sa place parce qu'elle est directement dans l'orbite russe.
Attention, c'est de la politique fiction, Frédéric Pichon, n'est pas obligé de surenchérir.
Je crois qu'il faut être pragmatique. C'est toute la question des moyens. Aujourd'hui, il est certain que l'Europe, l'Union européenne actuelle, ne prend pas la bonne orientation. Alors, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de Guillaume Fay qui disait quand un avion prenait la mauvaise direction, il valait mieux braquer le pilote de l'avion plutôt que de se mettre en face pour l'empêcher de décoller. Je crois malheureusement aujourd'hui que l'Union européenne prend une orientation telle que la machine me semble bloquée, qu'il me semble très difficile d'agir de l'intérieur. Tout semble possible, mais il faudrait à mon sens plutôt autour de quelques nations phares qui émergent et qui soient en rupture avec cette politique, 2-3 nations dans un premier temps, la France, l'Allemagne, pourquoi pas d'autres, qui puissent déterminer des objectifs et qui fassent en quelque sorte éclater l'Union. Alors je n'ai pas exactement répondu à votre question, mais c'est vraiment la question des moyens, et c'est plus de la tactique et la stratégie que du fond, mais c'est une question importante, évidemment.
Alors, donc autre défi effectivement que vous avez cité et qui on ne pourrait parler que de lui parce que par définition il conditionne tous les autres, le défi démographique. Alors je sais qu'on s'est félicité largement sur l'excellente démographie de la France
et donc la démographie que
le monde entier nous envie avec les prestations sociales qui vont avec. À supposer que la France soit cette oasis dont on parle, que reste-t-il du désert démographique européen aujourd'hui?
Ben, il est tout à fait catastrophique puisque depuis quelques années, depuis 2-3 ans, la courbe démographique en Europe est en recul pour la première fois dans l'histoire. C'est-à-dire qu'indépendamment des phénomènes liés à des guerres ou à des épidémies, c'est la première fois dans l'histoire qu'un continent connaît un tel déclin démographique. Et on peut penser à des pays comme l'Italie, l'Espagne, mais aussi des pays comme la Russie qui ont un taux dramatique autour de 1,1 enfants par femme. La France, alors effectivement, il y a eu des statistiques récentes qui parlent de 2 enfants par femme. Alors ces chiffres évidemment doivent être corrigés. J'ai vu que vous faisiez un petit peu de mauvais esprit tout à l'heure. D'après le démographe Dumont, compte tenu des enfants d'immigrés, il faudrait, des femmes issues de l'immigration, il faudrait peut-être rabaisser ce chiffre à 1,8, ce qui n'est tout de même pas si mal au regard des autres pays. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et ce qui est important de voir, c'est que les politiques démographiques ou les politiques familiales peuvent avoir un impact sur le taux démographique. Et la France, malgré tous ses défauts, accorde, pas suffisamment à notre sens, mais tout de même un certain nombre d'aides aux familles, et cela a un impact. Et certains démographes ont estimé que, toute évidemment comparaison étant en fonction de chaque pays, mais étant de 0,4 enfants par femme en fonction d'une aide familiale, ce qui n'est pas rien. Donc il y a un effort réel à consentir, et à mon sens la question justement de l'identité ne peut pas être dissociée de la question de la démographie et de la culture de vie, parce que il y a des dates symboliques. Quand on regarde la France, on s'aperçoit que la loi sur l'IVG est quasiment concomitante à la loi sur le regroupement familial, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit machiavélique, mais que finalement il y a eu une substitution de population à l'époque où finalement la France et l'Europe renonçaient à assurer le renouvellement génération, par la vie, par une politique familiale, on faisait appel eh bien, à une immigration de peuplement. Donc il y a quand même un lien entre l'identité et la démographie. Il
n'y aura pas de... c'est paradoxal avec ce que vous venez de dire, c'est que on sait bien, et qui voyage le voit, que la France est probablement le pays dans lequel l'ethnomasochisme frappe le plus, que le terrorisme intellectuel sur tout ce qui est national est terrible, que le poids de l'immigration est le plus fort, et donc cette substitution de peuplement est plus forte en France que nulle part ailleurs. Or, même si on fait tomber à 1,8 ou 1,6, le taux de fécondité est bien plus fort qu'en Italie, qu'en Espagne, ou que dans certains pays d'Europe de l'Est, y compris bien après la parenthèse communiste.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je crois qu'il faut rester dans l'espérance et qu'il y a des signes encourageants et que malgré quelques signes qui sont parfois un petit peu décourageants, il y a aussi des pôles de résistance qui sont significatifs.
Grégoire Gambier.
Oui, simplement, j'ai bien entendu le développement tout à fait juste hein, sur l'aspect crucial de la question démographique qui interrogeait l'Europe et donc son identité. Simplement, ça pose bien la question de l'identité européenne, parce que pour revenir sur ce que vous disiez au début, si cette identité n'est que chrétienne, alors je laisserai développer, l'immigration même de peuplement n'est pas si problématique que cela, si évidemment... les immigrés en question opèrent des conversions massives. Donc, quelle est la définition plus exacte de l'identité européenne que vous donnez ?
Alors, l'identité européenne n'est pas que chrétienne. Justement, nous ne faisons pas, comme disait Nicolas Sarkozy, un communautarisme historique, comme il dit. Nous assumons tout l'héritage de l'Europe. Et dans cette, justement, réflexion sur l'identité européenne, nous avons procédé par question et par interrogation de manière... la plus neutre possible. Est-ce que l'Europe, c'est les droits de l'homme ? Est-ce que l'Europe, c'est une race ? Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une culture ? Et on a répondu positivement ou négativement. Et on est arrivé finalement à cette affirmation selon laquelle l'Europe, c'est un peu tout cela à la fois. C'est à la fois des peuples. Il y a une définition de Jean-Paul II qui était magnifique au moment du traité de Nice. Des peuples celtiques, germaniques, héritiers de l'antiquité gréco-romaine, sur lequel s'est greffé le christianisme. Donc on assume l'héritage gréco-romain. Justement, c'est cette synthèse entre une certaine idée de la vérité et de la raison qu'on voit chez les Grecs, de la philosophie, la raison et la foi.
C'est un peu ce qu'Yvan Blot appelle les racines helléno-chrétiennes.
Tout à fait. Donc on assume aussi bien cet héritage antique pré-chrétien que le christianisme. On ne fait pas de sélection. Et dans une certaine mesure même, l'idée des droits de l'homme est née en Europe, même si elle a été pervertie idéologiquement et qu'elle constitue une espèce de christianisme inversé. Il ne faut pas abandonner non plus l'idée que la personne a quelque chose de sacré. C'est une idée fondamentalement non seulement chrétienne mais une idée européenne et nous assumons tout cet héritage.
Un christianisme inversé ou sécularisé.
Sécularisé, oui, tout à fait.
Philippe Christel, pas Philippe Christel, non, là, c'est peut-être Patrick Péel qui voulait intervenir.
Oui, c'est justement sur si on parlait de la France, parce que on est en pleine campagne électorale et puis en ce moment il n'y a pas un mot sur l'Europe. Alors sans tomber dans savoir exactement ce que propose chaque candidat, j'ai l'impression que la France, depuis que l'Europe s'est élargie, elle était un peu à la tête de l'Europe, et depuis quelques années, elle représente plus grand chose, elle n'a plus aucune influence, elle a bloqué l'Europe, mais on a bien vu que les partenaires qui étaient pour le oui se sont rassemblés, et sans la France, est-ce qu'on n'est pas en train de voir une France qui est en train de se dégager de l'Europe, et l'Europe qui est en train de se faire sans la France, avec l'Angleterre en tête, et l'Allemagne qui est en train de se dire... Bah, les Français, ils sont bien gentils, mais ils ont dit non, donc on va peut-être changer de partenaire. Est-ce que le Français n'est pas typiquement le moins européen dans sa démarche, tant qu'il n'est pas la tête de l'Europe ?
Mais ça serait une contradiction, parce que finalement, quand on regarde la France, c'est quoi ? Les Francs, c'était des tribus germaniques qui sont arrivées en Gaule, qui elles-mêmes avaient été largement romanisées. Donc la France est précisément une synthèse de tout cet héritage, de différents héritages européens. Il me semblerait totalement antinomique d'opposer la France à l'Europe, sauf précisément à renier son histoire et à baser la France sur une espèce de conception idéologique artificielle, jacobine, où finalement être français, ce ne serait pas être un héritier, Mais être français, ça serait adhérer à l'idéologie universelle des droits de l'homme, telle que...
Un ayant droit, plutôt.
Mais voilà.
On peut, justement, on le voit bien avec l'histoire du christianisme. Même Angela Merkel a dit clairement, c'est un constat, l'Europe est chrétienne. En France, on décide à chaque fois. On a été les premiers à être contre cette idée qui est faite un simple constat. Qu'on soit pour ou contre, c'est un constat. L'Europe a été chrétienne.
Bah, la phrase qui était prévue dans le traité constitutionnel au départ était très... très équilibré de ce point de vue-là. Enfin, oui, elle prenait l'ensemble de l'identité, excusez-moi, Frédéric Pichon, de l'identité européenne, justement, donc de la période de l'Antiquité jusqu'à l'humanisme. Enfin, il y avait là aussi l'allusion à l'humanisme.
Oui, tout à fait.
Alors, quelques messages rapidement pour laisser la parole un peu à nos auditeurs. La plupart des enfants naissant en France ont des parents d'origine immigrée. Il n'y a pas de quoi crier victoire. On a répondu en disant que on pourrait imaginer que le delta entre le chiffre officiel et le chiffre réel.
C'est pas la plupart.
C'est pas la 0,4. Donc,
soyons un peu optimistes.
Que là-dessus, il faut relativiser. Une auditrice nous dit, dans le traité européen, qui n'a pas été validé par les Français, on avait prévu de remplacer Union européenne par Union tout court, ce qui prouve bien qu'on avait déjà prévu de ne pas la rendre européenne. Philippe de Villiers nous dit, une auditrice a un discours extrêmement précis.
Je crois que c'était un message de Philippe de Villiers.
Non, non. Peut-être qu'il se déguise. Oui. Philippe de Villiers a un discours extrêmement précis et efficace en économie. Il faut l'écouter quand on lui donne la parole, et c'est trop rare. On nous dit également, on pourrait vous suggérer que M. Poutine est comme tous les chefs d'État, il n'est pas spécialement recommandable, voire la journaliste assassinée, etc. Je crois qu'on a largement dit à quel point, suivant le vieil adage, à qui profite le crime, il est très probable que ce ne soit pas le M. Poutine qui ait fait assassiner la brave Politkovskaya. Et puis des messages tout à fait sympathiques. Je salue les jeunes Européens. Chers amis, vos idées sont excellentes et votre dialogue est intéressant. Vos intervenants sont passionnants, mais de grâce, évitez les tunnels de 10 minutes. Je crois que c'est moi tout à l'heure, ça, avant que notre invité arrive. Et maintenant qu'il est là, j'espère que ça va beaucoup mieux. Et puis enfin, j'ai trouvé cette semaine un excellent site de géopolitique, www.europemaxima.com. Cet auditeur nous demande si nous le connaissons.
Oui, je l'ai déjà vu.
Vous le connaissez.
Je l'ai déjà vu sur...
C'est l'occasion de donner les références, surtout du site d'Europe Agentes.
Profitons-en.
Alors c'est europaagentes.com. Il y a un E après le A de Europa, europaagentes.com, donc un site qui est renouvelé toutes les semaines.
Alors attendez, on va dicter pour nos auditeurs. europaagentes.com.
D'accord. Donc, ce qui nous
met à jour toutes les semaines, ce qui est quand même rare pour un site
de fond.
Qui prouve que
oui, un site avec du contenu. Hein.
Oui, c'est pas.
D'accord.
On est d'accord.
Effectivement, non, mais on ne peut qu'inciter les auditeurs à aller, puisqu'ils sont maintenant quasiment tous internautes, à aller jeter un coup d'œil sur ce site parce qu'il est très bien fait, il est très interactif, comme c'est beaucoup la mode, mais sans tomber justement dans le côté clinquant. On voit bien que vous êtes des haltères européens puisque vous récupérez les méthodes un peu d'agit-prop qui ont été pendant longtemps l'apanage de l'extrême gauche pour une action politique bon franchement droitière, mais c'est pas nous que cela va gêner. Alors c'est ça qui nous a surtout séduit dans cette association, hein, une association jeune, dynamique, oui, avec une vraie action politique. Donc
vous faites un site internet que vous mettez à jour toutes les semaines, vous allez sortir un livre, vous êtes à l'origine de nombreuses manifestations. On pourra parler de la toute dernière, mais il y en a une quasiment tous les mois, si ce n'est tous les deux mois. Oui. Et elle draine beaucoup de monde. Mine de rien, vous êtes sur ces questions d'identité européenne ceux qui sont les plus visibles, comme on dit médiatiquement, alors que les partis de la droite nationale, que ce soit le MPF, le FN ou le MNR ou d'autres, sont relativement discrets.
Pourquoi pas le Parti populiste, pour l'anglais.
Ils sont relativement discrets sur ces questions-là. Alors comment vous faites? Quel est votre comment ça marche? Ne nous dites pas tout, mais dites-nous-en un peu plus.
Oui, la spécificité de notre association, et c'est quand même assez lourd à gérer, c'est qu'elle est généraliste aussi bien sur le plan thématique, on l'a vu, on aborde les thèmes d'identité, de géopolitique, de subsidiarité d'institution, que dans son mode d'action, c'est-à-dire qu'on privilégie plusieurs types d'actions et pas en particulier. On refuse la mode des partis politiques, on prend cette forme associative parce qu'on considère que ça apporte certes une pierre au combat général, mais que le parti politique, on peut en parler. Pensez à certains partis que vous avez cités, ne vise pas à créer une société, j'allais dire, alternative, à créer des réseaux, à s'enraciner durablement. Et il me semble que le système aujourd'hui est bloqué institutionnellement, judiciairement et médiatiquement. Il faut donc proposer une société alternative. Donc il faut être présent sur tous les fronts, aussi bien sur le plan des idées, c'est en ce sens qu'on a un site internet, qu'on va sortir un livre prochainement, donc constituer une espèce de think tank, pour reprendre l'expression moderne, un groupe de pression politique, d'être aussi à la pointe de réseau. On est partie prenante dans différents types d'actions avec d'autres associations, donc on n'est pas les seuls, et on prétend pas être les seuls, mais au contraire être un peu le fer de lance. Et puis, la manifestation de rue, des colloques, des actions militantes et ponctuelles, afin de constituer un tout cohérent. On est un peu, on a l'ambition d'être un peu l'attaque de droite, en quelque sorte. Bah,
c'est en cela que vous faites de la vraie politique et non pas effectivement de l'électoralisme. Est-ce que vous avez, on a fait une allusion, mais pas, on n'a pas été très précis sur la dernière grande manifestation à laquelle vous avez participé, et sans doute parmi les éléments moteurs qui était celle du 21 janvier dernier sur le droit à la vie, si oui, je ne m'abuse, gros succès populaire, maigre écho médiatique, mais ça on a l'habitude, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que les familles de notre famille fassent un peu plus que deux enfants par femme, peut-être. Et ça commence aussi comme ça.
Oui, tout à fait. Alors, on n'était pas les organisateurs de ce rassemblement. Non. On a appelé à y aller. Il y a eu effectivement 15 000 personnes selon les organisateurs et 3 000 selon la police. Oui. Mais en tout cas, il y avait plus de monde que l'année dernière, puisque j'y étais. Beaucoup de monde. Un public assez hétéroclite, assez militant, assez déterminé. Le soutien pour la première fois de 4 évêques, ce qui est inédit, des associations familiales catholiques. Donc, on voit bien que finalement, ce collectif a persévéré et que cette persévérance porte ses fruits, comme on le dit. La rue appartient à celui qui est descend. Et c'est en manifestant qu'on apprend à manifester. Donc, j'encourage tous les hommes de bonne volonté à continuer à agir et à croire que ça peut servir à quelque chose.
Donc, pour être tenu au courant de ces différentes manifestations, il y a bien évidemment votre site, hein, oui. europeagentes.com. Pour vos cycles de formation, est-ce que les cycles de formation ont repris
oui, tout à fait.
Début d'année?
On en fait un demain soir.
C'est le moment de l'annoncer.
Alors, c'est demain à 20h30. Alors, pour avoir l'adresse, il suffit d'envoyer un mail au webmaster. victoire34@europeagentes.com. Je répète, victoire34@europeagentes.com, et on vous donnera l'adresse de la conférence. Donc cette année, on fait un cycle effectivement de formation sur les rapports entre l'Europe, l'islam et la chrétienté. Donc on essaye à travers l'histoire de voir de quelle manière l'Europe s'est constituée, quels ont été ses rapports avec l'islam, pour essayer à terme de voir aujourd'hui dans la configuration à la fois géopolitique internationale et même la politique intérieure, on peut se situer par rapport au phénomène de l'islam.
Très bien, toutes ces initiatives sont belles et bonnes, vous pourriez le dire, Philippe Ristel. Donc, pour nos auditeurs, comment vous aider? Si ce n'est en participant et aux manifestations et aux cycles de conférences et en nourrissant le site, je crois, de contributions, de réflexions, donc pour élargir et fortifier donc la reconstruction un peu idéologique de l'identité européenne au XXIe siècle. Il y a peut-être des moyens plus prosaïques, voire financiers.
Alors, les moyens prosaïques, c'est également en allant sur notre site, puisque grâce au système PayPal, on peut payer en direct avec sa carte bleue ou en envoyant. Enfin, vous avez toutes les coordonnées. Donc, si vous allez sur le site comment nous aider, vous avez des rubriques qui vous indiquent justement la méthodologie pratique pour nous aider, parce que l'argent est le nerf de la guerre, effectivement. C'est peut-être le maillon faible de notre famille politique.
Alors, j'aurais voulu, sans revenir à une question, vous avez cité les quatre défis tout à l'heure, et on l'a vu dans la manifestation et dans la majeure partie des activités que vous organisez, vous avez un public, ou en tout cas une audience importante auprès des jeunes, ou en tout cas des jeunes, je dirais plus de la tranche 25-35 que des adolescents tout juste sortis des combats émouvants de leur adolescence. Quels sont, s'agissant du défi géopolitique, comment est-ce qu'il est perçu, compris, entretenu par cette population? Parce qu'on se rend compte, mine de rien, et même nous pour l'éprouver parfois au travers de cette émission sur Radio Courtoisie, ou de messages d'auditeurs ou de réactions de ceux qui écoutent, que le positionnement géostratégique, notamment en construisant une stratégie de puissance européenne sur un axe Paris-Berlin-Moscou, qui fait à la fois, quand on est à Paris, qui nous fait investir de l'espoir à la fois sur Berlin, capitale lourde de sens pour beaucoup, qui n'ont pas toujours dépassé un vieil antagonisme traditionnel, auquel on rajoute Moscou, qui donne d'autres raisons de ne pas avoir dépassé un autre antagonisme moins traditionnel mais très fort dans notre famille
de penser.
Vous faites allusion à Jean-Pax Mesfray.
Je fais allusion à Jean-Pax Mesfray, mais à tant d'autres qui ne chantent pas ou qui chantent mieux. En tout cas, aujourd'hui, cette population des 25-35 ans, est-ce qu'elle est totalement vaccinée ou débarrassée des vieilles stigmates de l'anti-Berlin ou de l'anti-Moscou? Comment est-ce que ce défi-là est vécu avec autant d'intensité que le défi démographique ou identitaire, où on voit bien que, de manière assez récurrente, tout le monde s'y retrouve assez facilement?
Non, il y a un effort pédagogique à faire sur ce point-là. C'est vrai que sur la question de l'Europe, enfin, sur les initiatives qu'on organise, on est suivi, on nous reconnaît ce mérite, mais sur l'Europe, on n'est pas toujours suivi. Il y a un effort pédagogique énorme à faire en faisant comprendre véritablement aux patriotes, parce qu'on est des patriotes français, mais que l'intérêt de la France, précisément, ça n'est pas dans une espèce d'hexagone fermé sur lui-même. Si on regarde les questions géopolitiques mondiales, si on veut que la France joue un rôle, se défende aussi bien sur le plan économique et commercial, qu'elle joue un rôle politique et militaire, on n'a qu'à prendre les problèmes les uns après les autres, les problèmes militaires. On a 13 000 hommes aujourd'hui en Afrique, d'autres au Kosovo, en Afghanistan. Quasiment un tiers de nos effectifs sont outre-mer. On est incapable aujourd'hui de pouvoir déplacer significativement des hommes dans le cadre d'un conflit de haute intensité. C'est-à-dire qu'aucun pays aujourd'hui en Europe est capable de le faire. Donc il y va de l'intérêt de chacune des nations européennes de prendre conscience de cet enjeu de dépassement. Mais je pense que si on explique bien les choses en proposant justement cette idée d'alter Europe, que la construction européenne, ça n'est pas Maastricht, ça n'est pas la technocratie, mais qu'elle s'enracine d'abord dans l'histoire. Je veux dire que quand on regarde la chrétienté, quand on regarde même les batailles de Vienne ou de Lépante, faudrait quand même que certains souverainistes méditent sur ces victoires européennes. Jamais l'identité européenne n'aurait été préservée si, à un moment donné dans l'histoire, on n'avait pas surmonté les rivalités nationales historiques et les Européens ne s'étaient pas unis contre un ennemi qui menaçait non seulement le territoire, mais la civilisation européenne dans son ensemble pour proposer une autre civilisation totalement et radicalement différente.
Et oui, l'Europe s'est bien faite dans les champs de bataille et ça donne à penser pour le siècle qui vient. Frédéric Pichon, une petite conclusion puisque nous arrivons au terme de cette demi-heure.
Oui, vous dites l'Europe s'est faite dans les champs de bataille et je rappelle que la première fois que le terme européen est apparu, c'est en 732 à Poitiers. C'est un historien qui a utilisé le terme de chrétien ou d'européen ou de franc. Enfin, c'est la même chose. C'est la première apparition historique. Donc moi je dirais aux auditeurs, n'ayez pas peur. Il y a des sources d'espérance, non seulement en France, mais des pays comme la Pologne, des pays, d'autres pays européens qui résistent encore et toujours à l'oppression mondialiste. Le tout, c'est de coordonner ces énergies. On envisage cet été de faire un grand voyage à travers tous les pays d'Europe avec un groupe de jeunes justement pour incarner cette Europe de l'unité.
Merci Frédéric Pichon d'être venu nous parler de votre association que tout le monde peut retrouver www.europaegentes.com et nous allons ouvrir incessamment sous peu notre troisième demi-heure sur l'actualité culturelle européenne. Nous nous retrouvons donc, chers auditeurs, dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, émission hébergée en deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch, avec toujours auprès de nous notre invité Frédéric Pichon qui reste avec nous pour cette demi-heure culturelle, parce que je pense qu'il ne faut pas rater ça, il est comme tous nos auditeurs, Grégoire Gambier et surtout Patrick PL, c'est vous qui avez la main mon cher Patrick pour cette demi-heure culturelle.
Alors maintenant c'est devenu une tradition, vous savez que je vous fais découvrir régulièrement des musiques qui viennent d'ailleurs, ce qu'on appelle la musique du monde, enfin elle est surtout européenne. Donc cette fois-ci, on était parti du haut de l'Europe du Nord, j'ai décidé d'aller directement dans le Sud et on va partir pour la Corse. Qui reste encore en Europe, même si certains peuvent en douter, mais ça reste en Europe.
Non, mais il y a que Ségolène Royal qui n'y croit plus, mais les autres, ça va.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, depuis maintenant 30 ans, les Corses ont combattu pour la renaissance de leur culture, ce qu'ils appellent, eux, la Reconquest, qui a été un mouvement pour la reconquête de leur patrimoine culturel. Et je ne prendrai pas trop de risques en disant que, sur le plan politique, ça n'a pas vraiment été une réussite, mais sur le plan culturel, que ça soit sur le plan artistique, ou musical, il y a eu un vrai effort. Il faut savoir que dans les années 60, la musique corse se résumait à un folklore d'une niaiserie qui faisait passer Tino Rossi pour un grand chanteur. Et si les premiers groupes comme Canta Populo Corsu ont redonné un répertoire, il faut bien dire que depuis les années 90, il y a des groupes comme Imouvrini qui étaient tombés dans la world music et le mélange des genres. Ça s'était déjà passé un peu en Bretagne, ça. Et,
oui.
Et la Corse a fait exactement la même chose. Donc, certains ont repris la relève et je vais vous présenter le groupe Largoods. Largoods, c'est le nom d'une petite arquebuse qui était utilisée au XVIIIe siècle par l'armée de Pascal Paoli. Et on peut dire que...
Les bandes de Pascal Paoli.
Non, par l'armée de Pascal Paoli. Et on peut dire que le ton est donné, se définissant lui-même comme un groupe politico-culturel. Leur chanson est un savant mélange de tradition et de militantisme. Par exemple, leur chanson Soeli est plus proche d'un chant militant sur roulement de tambour qu'une balade à la guitare vantant l'île de beauté. Il est devenu l'hymne de la jeunesse corse et rien qu'à l'écoute, on ferait passer les jeunes socialistes pour des afro-nationalistes. Alors, ne parlons pas le corse, j'ai quand même pu me faire traduire une de leurs chansons. On va faire un peu poésie, on va pas l'écouter, mais je vais vous lire leur texte. Je trouve ça quand même très très beau, même si c'est traduit. Donc, ce sont eux, enfants de ce soleil qui pique les consciences et qui écrivent l'histoire contre les préjugés. Frères de ce vent qui porte l'espérance du peuple corse, ils ont l'essence. Ils ont fait le choix de vivre pour demain, oiseaux de nuit qui ne craignent pas la clandestinité, à l'orée du maquis, quand se dresse une main en menant leur volonté au-delà des montagnes. Et si toi et moi lui tendons la main, nous sommes 100 000 d'un peuple saint, quand fleurit le maquis au début du printemps, à construire l'avenir et à semer le grain.
Vous avez vu, même en français, ça...
On lit des poésies, on est vraiment sur Radio Courtoisie.
Attendez,
ouais.
Moi, je...
Ah oui.
Donc, si vous voulez vous procurer ou même écouter
l'ordre, oui, si on veut.
Il n'est même pas question d'aller chez votre disquaire habituel. Je vous conseille donc le site de leur maison de disques qui s'appelle Ricordu. Alors, je vais épeler. Vous faites www.ricordu.com et vous cherchez Larguzzi et vous trouverez un double album qui est magnifique. Alors, si certains auditeurs auraient pu être choqués que je fasse l'éloge d'un groupe nationaliste corse, il ne faut pas oublier que la situation du peuple corse et de sa culture pourrait bien arriver au peuple français et à d'autres peuples européens et il ne faudrait pas l'oublier. Je vais vous parler d'un petit livre.
Ce qu'on dit souvent, ce qu'on dit pas assez souvent, c'est que proportionnellement et ramené au nombre d'habitants, l'impact de l'immigration en Corse est beaucoup plus fort que ce que l'on croit.
Ouais. Mais on a l'impression qu'il n'y a que des bergers et des chèvres en Corse.
Il n'y a pas de voiture qui brûle.
Non, par contre, c'est pas
des voitures qui explosent.
Ce sont des préfectures, des trésors publics,
c'est vrai.
Des DDE,
des mosquées.
Donc on va passer au livre. Alors, l'événement du livre en ce début d'année, c'est Éloge de l'énergie vagabonde de Sylvain Tesson. On connaît tous Sylvain Tesson et franchement, encore une fois, je reste impressionné par son écriture, sa lucidité et son analyse géopolitique. Bon. Alors cette fois-ci, il traverse les pipelines reliant les gisements de pétrole caucasiens à l'Europe. C'est bourré de mots d'esprit, il secoue notre conscience, il s'interroge sur notre mode de vie et en plus il nous fait voyager. C'est une écriture qui est digne d'un Henri de Monfreyne et une réflexion qui donne une sacrée claque à Nicolas Hulot. Oui, Monsieur Sylvain Tesson, respect et admiration. Il y avait un très bel article de Jean Raspail dans le Figaro là-dessus. Voilà un livre qui vous rend plus intelligent et vous fait réfléchir, et c'est devenu rare. Donc c'est l'éloge de l'énergie vagabonde de Sylvain Tesson, éditeur Les Équateurs. On va faire un peu d'histoire, on va partir en Suisse. Alors là, c'est un scoop que j'ai, c'est incroyable. En Suisse, vous savez qu'on ne trouve pas que de l'argent et du chocolat. On vient de retrouver les journaux intimes tenus par Benito Mussolini entre 35 et 39. Alors ça, c'est le dernier gag.
Ce sont des vrais ou ce sont des faux?
Alors, ces documents qui pourraient témoigner que Benito Mussolini cherchait à éviter la Seconde Guerre mondiale, et ceci d'après un extrait du journal qu'on vient de retrouver en Suisse. Alors écoutez bien, rien que cette citation, elle est extraordinaire. Nous ne pouvons pas et ne devons pas prendre les armes que de toute façon nous n'avons pas. Voilà. Alors, il paraît que ça serait de Mussolini. Alors, effectivement, c'est une analyse qui est fine, qui force le respect, puis c'est honnête de la part des Italiens. Donc, il y a déjà eu plusieurs découvertes de ce genre. Faut savoir que même la famille de Mussolini considère que ces carnets sont vrais. Il y avait déjà eu les faux carnets d'Hitler. Donc, on va rester prudent. Soit c'est une vraie découverte et sur le plan des historiens, ça peut être important. Soit on est encore dans une escroquerie et c'est vrai que ça vient de Suisse. On se demande pourquoi.
Mais on a retrouvé ça dans une vieille table de nuit
de François Jeune.
Non, alors on a retrouvé ça dans l'étape de nuit d'un partisan italien qui aurait arrêté à l'époque Mussolini. Dans sa famille, on a trouvé ça. Effectivement, ça doit être au grenier. Ça se trouve toujours au grenier, ce genre de choses. Je vais vous parler d'une chose un peu plus amusante ou peut-être plus grave, mon cher Philippe. C'est un secret pour personne, vous avez un garçon et une fille.
Oui.
Et bientôt, ils se feront la guerre des jouets.
Je ne savais pas si c'était un secret pour personne, mais maintenant, ça y est.
Bah, ça y est, maintenant, c'est dit. Vous voulez que je donne les prénoms?
Non. On peut aussi montrer les photos, on est à la radio. Ouais.
Le 16 décembre dernier, des associations, alors là, c'est extraordinaire, les associations Les Panthères Roses et Mixité se sont retrouvées dans une action contre les jouets sexistes, visant à dénoncer le formatage ultra-sexué des jouets destinés au Noël des enfants. Aussi ont-elles investi un grand magasin de jouets de la capitale pour déplacer les jouets rangés dans les rayons pour filles et vice-versa en criant. Alors ça, c'est un slogan. Ni rose, ni bleu, les jouets n'ont pas de sexe. Alors avec des slogans comme ça, nous sommes pas loin d'une révolution culturelle à la Mao. Je pense que la prochaine manif de mixité des Panthères Roses, il faut aller voir leur site, hein, je les ai pas en tête, mais ils sont extraordinaires. C'est des gens qui vraiment mènent des combats incroyables. Et je pense que leur prochaine manif, ils vont demander la suppression du Père Noël ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était un mois de décembre sympathique.
Alors sur les jouets, là, c'est plutôt dans les bonnes nouvelles. Enfin, c'est amusant. Vous avez vu, donc l'industrie du jouet, elle est évidemment en crise. D'abord parce qu'une bonne partie des jouets sont faits, si ce n'est tous, sont faits en Extrême-Orient. Et donc seuls ceux qui sont faits sous nos latitudes deviennent de moins en moins abordables, malgré quelques PME familiales qui résistent, comme Smoby, publicité non payée. Et puis tout simplement, du fait du déclin démographique dont nous avons parlé, il y a plus de gens qui ont envie de jouer avec un déambulateur que de gens qui jouent avec une poupée Barbie. Eh bien, les grandes compagnies qui produisent du jouet se sont dit qu'après tout, comme en plus on travaillait de moins en moins, pourquoi ne pas réinventer des collections de jouets pour adultes? Et ceux qui sont en pointe là-dedans, ce sont c'est l'industrie allemande du jouet. On en parlait, toujours cette compétitivité et cette bonne idée et ces bonnes idées dans l'industrie allemande. Et alors d'ici à ce que les grands fabricants de l'industrie du jouet allemand, et on sait que à Nuremberg et à Erfurt, qui étaient les deux grandes villes, alors Erfurt un peu sinistré, Nuremberg aussi, mais qui s'est relevé plus vite que ça. Donc les amateurs de jouets et de modélisme savent que les plus belles pièces venaient des ateliers de Nuremberg et d'Erfurt. Et donc on espère, puisque bientôt nous allons être des vieux, qu'ils vont pouvoir faire des beaux joujoux pour nous tous. Voilà, c'est une minute mélancolie, Patrick.
J'avoue que je ne connaissais pas votre intérêt pour le jouer. Je vais vous parler de cinéma. Il y a une bonne nouvelle, c'est Al Pacino, l'acteur américain, qui va interpréter le peintre surréaliste Salvador Dali dans un long métrage qui va être réalisé par Andrews Niccol. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, car Andrews Niccol, c'est un réalisateur néo-zélandais et pas américain, comme souvent on le voit sur certains sites, qui a réalisé le fameux Bienvenue à Gattaca et le Lord of the War, ce film produit en Europe, qui n'avait trouvé aucun producteur aux États-Unis. Il faut savoir que c'était un film sur les ventes d'armes. Et effectivement, à l'époque, on était en pleine guerre d'Irak. Donc ce nouveau film basé sur le livre écrit par le marchand d'art belge Stanton Rinsen relate son amitié avec les dernières années de sa vie. Alors vu les premiers films d'Andrew Niccol, je pense que ça devrait pas être un film très sympathique. Je vous donne quelques dates de... Ça, c'est une exposition, il faut aller voir. Il y a une très belle exposition sur l'Europe à voir, c'est dans la crypte archéologique de Notre-Dame de Paris. Alors, qui est pour moi l'un des endroits les plus merveilleux de Paris. Alors, c'est pas la crypte qui est sous Notre-Dame, c'est la crypte qui, à mon avis, c'est de l'autre côté, c'est par la préfecture qu'on peut y rentrer, qui avait été inaugurée dans les années 80. Et vous avez, dans le cadre de l'année de l'Arménie, vous savez que c'est le cadre, c'est l'année de l'Arménie, mon cher Philippe.
On salue Charles Aznavour.
Voilà. Le visiteur de la crypte, justement, est invité à faire connaissance avec ce pays du Sud-Caucase, à découvrir son histoire
mouvementée. Fidèle allié de la Russie.
Exact, et les paysages spectaculaires de cette citadelle montagneuse. Alors même moi qui n'étais pas très emballé, je l'avoue au départ, j'ai découvert une architecture extraordinaire, comme quoi, un peu de curiosité, l'Arménie ne se résume pas seulement, effectivement, comme vous le dites, à Charles Aznavour, qui est un excellent chanteur au demeurant. Donc, dans le cadre de l'année de l'Arménie, précipitez-vous à l'exposition qui dure jusqu'au 25 mars 2007 dans la crypte archéologique de Notre-Dame. Donc ne rentrez pas dans Notre-Dame, ça ne sert strictement à rien. Enfin,
vous pouvez aussi rentrer dans Notre-Dame.
Peut rentrer.
Ça ne vous fera pas de mal.
En tout cas, les Européens Gentes vous le recommandent.
Vous le recommandent vivement.
Bah oui.
tout à fait.
Tout à fait.
Alors, oui, allez-y. Allez-y. Non, un message d'une auditrice auquel elle a très envie de répondre, puisque cette auditrice nous dit « Je trouve très triste que vous parliez de la vieille Europe. C'est démoralisant et méprisant, alors que cette Europe a tout donné aux autres continents. Merci de bien vouloir changer de terme, la grande Europe par exemple. » Alors, merci. Madame, sachez,
oui, vous allez
sachez,
pouvoir expliquer,
madame, et c'est pour ça que je réponds, que nous avons choisi ce terme de vieille Europe en réponse à la moue méprisante de Donald Rumsfeld, qui, au moment de la guerre en Irak et de la réaction légitime d'un certain nombre de pays européens, a clamé sur toutes les ondes que tout ça c'était très gentil, mais enfin ça c'était les pays de la vieille Europe, et que la nouvelle Europe, elle, et là il s'adressait aux alliés atlantistes d'Europe de l'Est, la jeune Europe, elle, était du côté des forces du bien, et donc en réaction et en pied de nez, pour montrer justement que cette vieille Europe avait toute sa vitalité, et que dans le mot vieille, il y avait l'ancienneté, la fidélité et la force des traditions les plus enracinées, nous avons donc gardé ce vocable de vieille Europe, et que nous allons conserver, même si, évidemment, pour nous, elle est forcément grande.
En sachant que Rumsfeld n'a plus son poste, alors qu'il
est jeune.
Nous, on est toujours là.
Voilà.
Notre émission sera de courtoisie.
Ce qui prouve qu'on ne s'attaque pas impunément à nous.
Oui, il faut faire très attention. Une exposition qui va arriver, ça va être à partir du 10 mars. Vous savez que cette année, on va fêter le tricentenaire de la mort de Vauban. De Vauban, qui est quand même sur le plan stratégique à une autre allure que Rumsfeld. Donc, c'est le musée de l'armée qui va organiser ça du 10 mars au 15 avril. Donc je ne l'ai pas vu, mais ça sera forcément très 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 intéressant.
Vous savez, Grégoire Gambier, vous qui êtes un patriote breton, que c'est que vous devez
breton,
vous,
ça veut dire
vous devez beaucoup à Vauban, parce que c'est Vauban qui a été le principal développeur du concept de l'élevage du porc dans les familles.
Mm-hmm.
Et Dieu sait si la Bretagne aujourd'hui doit à cette découverte majeure.
Ouais.
Je pensais que ça vous plairait.
Enfin, non, on doit aussi beaucoup à De Gaulle pour l'installation de l'usine Citroën à Rennes et puis la 4 voies.
Non mais
je sais pas. Allez-y, développez.
Non mais ça c'est le secteur privé, mon vieux De Gaulle, pour lui qui a implanté Citroën à Rennes.
Je vois que vous êtes un grand connaisseur de Vauban.
Belle-Île au moins, vous levez à Vauban.
Belle-Île, Brest.
Saint-Malo, une partie de Saint-Malo. Juste devant, non?
Oui, peut-être.
On va attendre qu'un auditeur de Radio Courtoisie nous corrige.
On va demander aux auditeurs, mais je pense qu'une partie
des auditeurs, il vous reste 8 minutes pour nous dire si Vauban a relevé les fortifications de Saint-Malo. Le gagnant gagne une tringle à rideau.
Donc, je vais vous parler d'une petite maison de DVD. C'est un petit coup de pouce, un petit éditeur qui s'appelle DVD Artus Film, qui s'est spécialisé dans les films fantastiques européens. Alors par exemple, dans cette petite maison d'édition, il y a une petite merveille italienne de Giacomo Gentilomo, qui a réalisé en 1958 Le Chevalier Blanc, qui retrace la légende des Nibelungen. Giacomo Gentilomo, qui avait décidé de rendre hommage à Richard Wagner, qui l'a découvert lors de ses études d'art en Allemagne, et qui depuis voue une vénération sans bornes. Il a fait ce film rythmé au son de la tétralogie et rendant aussi grâce au film de Fritz Lang. Alors ce sont des films des années 58, on est au début des années, quasiment à la fin des années 50. C'est un peu kitsch, c'est du cinéma avec beaucoup de couleurs, beaucoup de carton-pâte. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'originalité de cette maison d'édition, DVD Artus, c'est qu'ils ont créé autour du film de véritables bonus. Vous savez, en règle générale, les bonus sur les DVD, si vous avez le droit à des scènes qui n'ont pas été mises, ou une sorte de bêtisier, enfin il n'y a jamais de choses très intéressantes. Et là il y a un vrai travail éditorial qui a été fait. Par exemple, ils ont interrogé un professeur d'histoire du cinéma et spécialiste du Moyen-Âge qui est François Ami de la Bretèque, qui fait un exposé complet sur Le Chevalier Blanc. Il y a un reportage sur la légende des Nibelungen avec un professeur d'histoire conférencier qu'on avait reçu ici, Pascal Land, qui nous avait parlé de Tolkien et qui fait le tour de la légende germanique depuis ses origines et évoque la pérennité du mythe. Ils ont interrogé aussi l'une des actrices qui a été l'une des premières Grimild dans ce film. Enfin, il y a un vrai travail qui a été fait et je voulais vraiment donner un coup de chapeau à cette petite maison d'édition. Donc, vous avez un site internet qui s'appelle artusfilm.com où vous pourrez commander leurs DVD en direct. C'est beaucoup mieux pour eux et moins bien pour la FNAC et donc un petit peu plus d'argent pour faire d'autres DVD. Donc bonne chance à Artus Film. Voilà.
Grégoire Gambier, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule culturo-éditorialo-littéraro-esthétique?
Vous refaites un tunnel qui va nous être reproché. Non, c'est un coup de cœur parce que je suis de bonne humeur. Et je suis tellement de bonne humeur que je vais saluer la nouvelle version de Valeurs Actuelles. Vous savez que c'était une revue qui nous avait un peu habitués à des contorsions chiraco-atlantistes du meilleur effet. Et bien, depuis quelques semaines, elle a changé totalement de formule avec davantage de pages, notamment culturelles, voire idéologiques. Et donc, c'est un vrai recentrage à droite, si je peux me permettre cette expression osée, mais tout à fait exacte quand on connaît l'histoire de cette revue et notamment de sa revue sœur Spectacle du Monde. Donc c'est d'autant plus agréable que ce retour aux sources est né d'une enquête auprès des lecteurs qui ont tout simplement demandé à la rédaction un vecteur idéologique de combat contre la gauche. Donc la rédaction pas bégueule leur fournit ce vecteur, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Juste pour illustrer mon propos, parce qu'évidemment les auditeurs peuvent penser que je dis n'importe quoi, ben le dernier numéro...
Ils peuvent.
Plus maintenant.
Surtout qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs de
Valeurs Actuelles, ouais.
Qui écoutent Radio Courtoisie.
Ben, ils ne peuvent pas tous lire Le Choc du Mois, donc il y en a certains qui lisent Valeurs Actuelles.
Heureusement.
Donc dans le dernier numéro, celui de la semaine dernière, donc avec Bérou Le Pen, Le Choc des Outsiders en couverture, bon, ça c'est plus politicien. Simplement, donc Philippe Christel, on peut lire donc des interviews assez peu convaincantes d'ailleurs de nouveaux républicains Max Gallo et Maurice Gédantec. On peut lire aussi un entretien croisé nettement plus intéressant, lui, d'Hervé Couteau-Bégari et d'Emeric Choprade sur les leçons de la présence militaire française au Liban. Des tribunes de Denis, enfin la tribune de Denis Tillinac, donc qui est pas toujours très très probant, mais là c'est pour dénoncer l'ethno-masochisme français. Ouf,
c'est dur à dire.
On y revient. Oui, c'est tellement sale qu'on a du mal à le dire. Mais donc on en parlait tout à l'heure pour l'Europe. On a un très bon papier de Jean Raspail évoquant Jacques Cartier, où on a encore le journaliste Bruno de Cézol rendant un hommage appuyé à Henri Béraud, ce qui devrait là aussi vous satisfaire, Philippe Christel. Bref, dans un seul numéro, je ne mens pas.
Pour les obèses ou pour les anglophobes? Précisez votre pensée.
Pour les vrais esthètes, comme dirait Olivier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous avait parlé de Morand la dernière fois.
Donc oui, Olivier Lebrun.
Olivier Lebrun, donc c'est un hommage appuyé. Voilà, bref, Valeurs Actuelles est aujourd'hui le seul news magazine français... C'est un news magazine français. C'est un peu comme le recentrage à droite.
J'aime bien ce genre d'expression.
Voilà. Où il y a encore quelque chose à lire au bout de 5 minutes. Oui. Et c'est suffisamment rare pour être souligné. Et ça vaut donc largement les modestes 3,20 € exigés. Et ça ne peut que conforter donc la rédaction dans sa belle politique éditoriale du moment.
En sachant que pour une fois, c'est une vraie formule qui était... Parce que souvent dans les journaux, on vous change simplement la maquette, on remet exactement la même chose. Là, il y a eu un vrai travail de fond qui a été fait. C'est vrai que je n'était pas un grand lecteur de Valeurs Actuelles, mais les pages culturelles sont vraiment d'un très haut niveau, et franchement il faut le dire, quand quelque chose est bon, on est toujours les premiers à le dire.
Bah oui, absolument. On n'est pas bégal.
Bah non, pas du tout.
Donc, Frédéric Pichon, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule, puisque c'est la règle un petit peu de cette troisième demi-heure, sur vos sorties ou vos dernières lectures, quelque chose que vous voulez faire partager en plus ou en moins à nos auditeurs?
Pas de lecture en particulier, sinon une immense espérance. Je crois que le défi auquel l'Europe est confrontée, le défi le plus fondamental à laquelle elle a été confrontée dans son histoire, c'est d'abord en redécouvrant ses racines, son identité, qu'elle puisera la force nécessaire pour surmonter ces nouveaux défis. Je pense qu'on en a vu d'autres dans le passé. Je pense pas qu'il y ait eu d'âge d'or véritablement dans le passé. Toujours une histoire est faite de luttes, de combats, de troubles, et l'histoire appartient aux minorités agissantes, comme disait l'autre, inaccessibles au découragement. Donc je crois qu'il faut vraiment que les auditeurs de Radio Courtoisie se disent que ils peuvent aussi devenir les acteurs de ce renouveau, et cela ne tient qu'à chacun d'entre nous.
Merci Frédéric Pichon, et bon vent à votre association. Merci. Europa et Gentes. Merci Patrick PL pour votre chronique. Merci Grégoire Gambier pour l'ensemble de ces éléments. Chers auditeurs, malgré vous, on ne saura donc toujours pas si Vauban a contribué à l'érection des fortifications de Saint-Malo.
On verra qui nous donne un vrai sujet
pour la prochaine émission. D'ici là, on va tous réviser. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie. Et puis, bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 14 février 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 15 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Pour la Sainte Russie, pour la vieille tradition, pour la gloire.
Radio Courtoisie.